Alors, bonsoir à tous et à toutes. Les bénévoles de l'association JALMAV sont heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence. Nous remercions aussi le personnel de l'espace Mendès France qui nous permet de tenir cette soirée. Nous remercions tout particulièrement Monsieur Éric Fiat qui est philosophe et qui a accepté d'être avec nous ce soir pour animer cette conférence « Fragilité et vulnérabilité de la personne en fin de vie ». Je ne reviens pas sur les objectifs et les activités de JALMAV qui vous ont été présentés par le diaporama. Si vous avez des questions à nous poser, eh bien, vous pourrez le faire. Beaucoup de bénévoles de JALMAV sont dans la salle et vous pourrez poser des questions à la fin de la conférence. Face à l'épreuve de la maladie grave, de la souffrance qu'elle engendre et l'angoisse que génère l'approche de la mort, la personne en fin de vie est fragilisée et vulnérable. Les bénévoles de JALMAV ont choisi de s'engager pour aller à la rencontre de l'autre dans sa vulnérabilité, pour être témoin de ce que vit la personne et la maintenir dans la communauté des hommes. Les situations d'accompagnement des personnes en fin de vie sont parfois complexes et difficiles et nous invitent à un questionnement humain et éthique. Conscients de ce destin partagé, nous demandons au philosophe Monsieur Éric Fiat de nous aider à réfléchir sur la fragilité de la condition humaine, notamment en fin de vie. Bonne soirée à vous. Je vous passe la parole.
On raconte dans la mythologie grecque que le roi Pélée et sa femme Thétis eurent un jour un fils qu'ils nommèrent Achille. À sa naissance, sa mère Thétis, soucieuse qu'il devienne un homme fort et invulnérable, décida de le plonger dans les eaux du Styx, qui avait la réputation de rendre invulnérable l'être qui y était plongé. Mais pour plonger son fils Achille dans les eaux du Styx, il fallut bien que sa mère Thétis le tînt par quelque endroit. Et vous savez qu'elle l'avait tenu par son talon, d'où le fameux talon d'Achille. De sorte qu'Achille, en effet, était totalement invulnérable, sauf par son talon où sa mère l'avait tenu. Il paraît que Achille reçut une excellente éducation. Il eut notamment pour précepteur le centaure Chiron, qui, en ornant sa belle intelligence des connaissances les plus utiles, ne négligea pas, dit la légende, de développer et de fortifier son corps. Il paraît que pour que Achille reste quasiment invulnérable et très fort, il paraît que Chiron le nourrissait de cervelle de lion et de tigre, afin de lui communiquer un courage et une force irrésistibles, semblables au courage et à la force qu'on prête généralement aux lions et aux tigres. Et alors, en effet, Achille devint fort, courageux et beau. On disait à l'époque qu'Achille était semblable aux dieux, lesquels passent pour immortels, invulnérables, etc., etc. Semblable aux dieux, mais cependant non pas Dieu lui-même. Et puis, en effet, un jour, Thétis fut instruite par les oracles de l'avenir de son fils Achille. Les oracles avaient dit que un jour, Achille se rendrait dans la ville de Troie et qu'il périrait là-bas. Alors, évidemment, elle a essayé de déjouer la prédiction des oracles. Et pour que Achille ne soit pas conduit à faire la guerre de Troie, et donc à mourir à Troie, eh bien, elle eut l'idée de l'envoyer déguisé en jeune fille, sous le nom de Pyrrha, à la cour de Lycomède, roi de Scyros. En fin de conférence, on vérifiera si vous avez bien suivi, et il me faudra vous demander qui est Thétis, qui est Pélée, qui est Chiron, qui est Skyros, qui est Lycomède, etc., etc. Bon, enfin, le seul personnage important de l'histoire, c'est Achille, hein, qui passait pour invulnérable et dont cependant, vous voyez ça venir gros comme une maison, dont cependant, on va bientôt dire la vulnérabilité. Alors précisément, pour éviter que la prédiction ne se réalise et donc qu'Achille meure à Troie, eh bien sa mère l'avait envoyé déguisée en jeune fille sous le nom de Pyrrha à la cour de Lycomède, roi de Skyros. Et alors, il y fut demeuré en paix si le devin Calchas, lui aussi informé que les Grecs ne prendraient jamais Troie sans le secours d'Achille, n'avait en rêve découvert le lieu de la retraite d'Achille. Oui, Calchas se dit, on n'arrivera pas à prendre la ville de Troie si on n'y est pas aidé par le puissant Achille, par l'invulnérable Achille. Mais où se cache Achille? Et en rêve, Calchas, le devin Calchas, vit Achille se trouvait à la cour de Lycomède. Alors, les princes grecs envoyèrent à Skyros le rusé Ulysse. Il s'y rendit déguisé en marchand. Il savait que Achille était déguisé en femme. Et pour arriver à découvrir où était Achille, eh bien, il eut l'idée de présenter aux femmes de la cour des bijoux et des armes. Évidemment, l'immense majorité, c'est une légende un peu macho, l'immense majorité des femmes choisirent les bijoux plutôt que les armes. Mais alors, cet idiot d'Achille, parce que là, il ne s'est pas montré très délié, enfin, lui a préféré les armes aux bijoux. Immédiatement, Ulysse l'a démasqué, tué Achille, et alors il l'a emmené au siège de Troie pour faire la guerre. Thétis, sa mère, ne s'avoua pas vaincue. Et elle eut l'idée de demander à Vulcain qu'il confectionne une armure impénétrable. Elle se disait que, bon, bah, ça y est, il va aller là-bas, il va faire la guerre là-bas, mais pour qu'il ne soit pas blessé, eh bien, je vais demander à Vulcain une armure impénétrable, une armure invulnérable. Là encore, le rêve de la mère d'Achille, le rêve de Thétis, c'était d'espérer empêcher la réalisation de la prédiction que l'on sait. Achille devint bientôt le premier héros de la Grèce et la terreur de ses ennemis. Il prit de nombreuses villes et il acquit une réputation d'invincibilité et d'invulnérabilité. Mais, la prédiction se réalisa. Et pourquoi ? Eh bien, d'après Ovide, elle se réalisa à cause de l'amour. Ou grâce à l'amour. Car en effet, à Troie, Achille tomba amoureux de Polyxène, fille du Troyen Paris, et il la demanda en mariage. Paris accepta, et lors de la cérémonie nuptiale, notre héros Achille fut bien contraint d'ôter son armure pour épouser sa belle. On n'épouse pas une belle en armure. Et lorsqu'il faut cueillir dans les bras de celle qu'on aime les doux fruits d'amour, il faut se dévêtir un peu. Et en effet, on raconte que au moment où, pour la première fois, Polyxène embrassait Achille, eh bien, Paris tua Achille en lui décochant une flèche à l'endroit fatal, au talon d'Achille. Et cette blessure au talon fut une blessure mortelle. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? Eh bien, que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine. Que l'homme est fondamentalement un être vulnérable, c'est-à-dire capable d'être blessé. Car dans vulnérable, il y a vulnus qui veut dire la blessure et ab qui veut dire capable. Le vulnérable, c'est le blessable, celui qui peut être blessé. Alors, bien sûr, Achille n'est pas un homme comme les autres. On le disait semblable aux dieux. Invulnérable, puissant, beau. Cependant, même s'il était semblable aux dieux, il n'était pas divin. Et pour être un héros, il n'en était pas moins un homme. Ce qui est fort intéressant, c'est que toutes les ruses qu'a essayé d'utiliser sa mère pour dissimuler sa vulnérabilité native eh bien, ont échoué. Alors Tétis, elle a essayé 3 thérapies pour essayer de guérir son fils au fond de son humanité, au fond de sa vulnérabilité, n'est-ce pas ? Ce que nous murmure la légende, c'est que la mère d'Achille, Tétis, a utilisé 3 thérapies pour essayer qu'il ne soit pas vulnérable. Elle a essayé l'hydrothérapie, c'est la thérapie par l'eau du Styx, ça n'a pas marché. Elle a essayé la métithérapie, métis la ruse en grec, c'est la thérapie par la ruse, hein, elle le déguise en femme et comme ça il échappera à son destin, ça n'a pas marché. Elle a enfin utilisé la vulcanothérapie, la thérapie par l'armure de Vulcain, et ça n'a point marché non plus. Pourquoi ? Parce que pour être un héros, il n'en était pas moins homme. Pourquoi ? Parce que semblable aux dieux, il n'était cependant pas vivant. Et en effet, la maladie, la vulnérabilité, la fragilité et la mort viendront. Elles sauront trouver leur chemin. La mort trouvera la faille de l'armure, le lieu vulnérable dans le corps invulnérable, la partie démunie de la forteresse, parce que nous sommes en effet, comme disait Heidegger, des êtres pour la mort. Des êtres pour la mort. Heidegger le disait, mais Brassens à sa manière, plus belle et plus légère aussi. Rappelez-vous, Oncle Archibald, hein, cette belle chanson où Brassens nous dit que en courant sus à un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montreux, Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort, la rencontre entre eux. Telle une dame de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière, aguichant un peu les passants, troussant un peu plus haut qu'il n'est décent, son suaire. Je trouve ça magnifique, hein, la comparaison que fait Brassens de la Camarde et de l'Aphrodite du Carrefour. Hein. C'est ainsi que le philosophe Vladimir Yankelevitch nommait les péripatéticiennes, pour employer un terme assez élégant, mais d'autres vous viennent peut-être à l'esprit. Hein. Yankelevitch appelait les putes les Aphrodites du Carrefour. Eh bien, Brassens, de comparer la Camarde à l'Aphrodite du Carrefour, hein, telle une dame de petite vertu, elle aguichait les passants, hein, troussant un peu, elle arpentait le trottoir du cimetière, telle une dame de petite vertu, aguichant un peu les passants, troussant un peu plus haut qu'il n'est décent, son suaire. Et de même que l'Aphrodite du Carrefour, peut-être, messieurs, éventuellement, parfois, trousse un peu plus haut qu'il n'est décent son jupon, vous disant, Boblon, ça dirait jeter un petit coup d'œil, viens dans mes bras. Eh bien, de même, la Camarde dit à Oncle Archibald, viens dans mes bras, si tu veux, tu pourras crier vive la Ligue ou vive le roi, tu n'auras plus jamais mal aux dents, hein, une fois que tu seras mort, et tu pourras crier vive la Ligue, vive le roi, viens dans mes bras. Mais Oncle Archibald, d'un ton gouailleur, dit à la Camarde, va faire pendre ailleurs ton squelette. Fille des femmes décharnées, vive les belles, un tantinet, rondelettes. Et donc il éconduit la Camarde, mais la Camarde n'est pas contente et sort de son linceul la grande faux d'agronome et trancha d'un seul coup d'un seul le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, la mort lui dit « Mais tu ne sais pas que notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême. » Et alors en effet, l'hymen, c'est-à-dire le mariage entre la mort et oncle Archibald, eh bien il est prévu depuis le jour de ton baptême. Là on voit le tour un peu anticlérical de Brassens qui fait semblant d'oublier que pour les chrétiens, le baptême, c'est ce qui permet de vaincre la mort. Mais laissons de côté le tour anticlérical de Brassens, qui d'ailleurs était beaucoup plus ambigu sur ces questions. Il y a une autre chanson de Brassens où il dit « Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en là-haut voir si j'y suis. » Ça veut dire que il ne sait pas. Hein, il était agnostique et non pas athée, il ne savait pas. Et donc laissons de côté le tour un peu anticlérical. Notre hymen à tous les deux est prévu, non peut-être pas depuis le jour de notre baptême, mais en tout cas depuis le jour de notre naissance. Oui, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir, disait Heidegger. Notre hymen à tous les deux, à la Camarde et à moi, à la Camarde et à vous, à la Camarde et à n'importe quel de nos amis, eh bien, cet hymen, ce mariage, eh bien, il est prévu depuis le jour de notre naissance. Et donc, précisément, voilà ce qui fait de nous des êtres fondamentalement vulnérables. L'homme est un être pour la mort, disait Brassens. L'homme est un être pour la mort, disait Heidegger. Oh, vous me direz que c'est là le lot commun de tous les êtres vivants. Car il n'y a pas que l'homme qui soit pour la mort. On dira que l'animal lui aussi doit mourir, que la plante elle aussi doit mourir. Mais si Heidegger dit que l'homme est un animal pour la mort, que l'homme est l'être pour la mort, c'est parce que selon Heidegger, et je crois qu'il n'a pas tort, savoir qu'on va mourir et ne pas le savoir, cela fait quelque différence. L'homme est sans doute le seul vivant qui sache qu'il va mourir et qui peut penser à sa mort en l'absence de tout signe de sa mort. Car il est à peu près évident, les éthologues, les spécialistes des animaux nous le disent, que certains animaux, en présence de la mort, ont le sentiment que quelque chose va se passer. Mais nous autres, nous n'avons pas besoin d'être malades pour y penser. Nous n'avons pas besoin de voir un mort pour y penser. La mort qui habite l'homme rend l'homme inhabitable à lui-même, disait Heidegger. Et précisément, il est vrai que le dahlia mourra, il est vrai que le phacochère mourra, il est vrai que nous mourrons tous, mais ce n'est pas la même chose que de mourir en le sachant et que de mourir sans le savoir. Il me semble que précisément parce qu'il peut ne pas penser, parce qu'il peut ignorer sa mortalité, eh bien, l'animal comme la plante, l'animal s'installe dans l'existence avec une forme de confort, n'est-ce pas ? Il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de pénardité animale. C'est un concept que je lance sur le marché sans aucun succès pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Il y a une sorte de pénardité animale qui fait qu'une fois que l'animal a satisfait ses besoins, eh bien, il se love dans l'être, il s'y installe, il s'y prélasse. Alors que nous autres, êtres humains, quand bien même nous aurions satisfait tous nos besoins, quelque inquiétude, quelque angoisse demeure. Il faut comparer l'extraordinaire quiétude et pénardité du chat qui a bien mangé et qui se love sur le canapé et y ronronne, et cette inquiétude qui demeure toujours, cette angoisse jamais lointaine de l'homme. Même une fois tous nos besoins satisfaits, nous restons inquiets. L'homme, c'est l'animal inquiet, disait Leibniz. Formule surprenante, car si Leibniz dit l'homme, c'est l'animal inquiet, ça veut dire que pour lui, c'est le seul. Même Johnny Hallyday est capable de comprendre que si Leibniz dit l'homme, c'est l'animal inquiet, ça veut dire que c'est le seul. Parce que s'il avait dit un animal inquiet, il y en aurait d'autres. Mais là, c'est le seul. Oh, c'est pas vrai. Nous avons tous en mémoire l'image de l'inquiétude animale. Nous avons vu un chien à l'arrêt, tendu, sur le qui-vive, point en repos, à l'affût du lapin qui se profile. Voilà une première image de l'inquiétude animale. Nous avons tous en mémoire cette inquiétude qui prend certains oiseaux au moment où se profile le tsunami ou le tremblement de terre ou le raz-de-marée. Nous avons vu des animaux errant à la recherche de leur proie. Donc oui, il y a en effet quelque chose comme une inquiétude animale. Mais je dirais que l'animal n'est jamais que superficiellement, pelliculairement, périphériquement inquiet, que profondément, intimement, nucléairement, il est quiet. Et l'inquiétude, c'est l'absence de repos. Ça vient de quies quietis, qui veut dire le repos en latin, d'où les boules du même nom, hein, les boules quies, dont le but est de permettre le repos. L'inquiétude, c'est l'impossibilité de rester en repos. Eh bien, je dirais que l'inquiétude, l'animal est un être fondamentalement quiet à qui il arrive de tomber dans l'inquiétude de manière contingente, accidentelle, superficielle, pelliculaire, alors que nous autres hommes, nous sommes inquiets jusque dans notre fond et même notre tréfonds. Et cela vient, je crois, en effet, du fait que, eh bien, l'homme, c'est ce qui me semble singularisé dans la création, c'est le seul vivant qui sache qu'il aurait pu ne pas vivre et qu'il ne vivra plus. Nous savons, ou en tout cas sentons, que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Nous nous savons contingents et nous nous savons mortels. Et contingente en philosophie, une chose qui est mais qui aurait pu ne pas être. Et mortelle, une chose qui est mais qui ne sera plus. Nous nous savons contingents, nous nous savons mortels. Nous sommes, mais nous savons ou sentons que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Oui, nous aurions pu ne pas être. Il aurait suffi que votre père ne rencontrât point votre mère. Et il s'en est fallu de peu. Il se trouve que la pitié des chemins de fer les a placés l'un en face de l'autre dans le TGV. Il aurait suffi qu'il se trouvât dans la voiture 47 et cette dame dans la voiture 46. Vous ne seriez pas là. Ils auraient pu se rencontrer au bar. Non, carrément. Il aurait suffi qu'il fût présent dans le train Poitiers-Paris de 17h26 et elle dans celui 18h24. Ces horaires sont fantaisistes. Vous ne seriez pas là. Alors, ils sont l'un en face de l'autre. Attendez, c'est pas gagné, hein. Il aurait suffi qu'il ne la draguât point avec l'éloquence qu'il y a mise, vous ne seriez pas là. Cela faisait déjà plusieurs minutes qu'il avait envie de parler à cette femme qu'il trouve ravissante. Il est violoncelliste, il a repéré qu'elle est en train de lire une revue musicale, il se dit qu'il y a là une entrée en matière possible, il est en train de préparer son compliment. Au moment où il va le dire, passe le contrôleur, contrôle des titres de transport. Il laisse tomber. Au deuxième moment où il est sur le point de lui parler, eh bien, elle se relève pour aller aux toilettes. Et vraiment, là, il n'y a plus que 5 minutes avant l'arrivée en gare Montparnasse. Et il se lance. Et il lui demande finalement son numéro de portable. Elle hésite à le donner parce que oui, il est pas mal, il a du charme. Mais quand même, il va vite en besogne. Alors, est-ce que je lui donne le portable ou pas? Ou est-ce que je le donne vrai ou faux? Il arrive que certaines femmes changent le dernier numéro. Salope. Il arrive que certaines femmes changent le dernier numéro parce qu'elles se disent bon, etc. Non, elles donnent le bon numéro. Attendez, vous n'êtes pas encore là. Hein. Alors, il la rappelle, il se voit. Vous n'êtes pas encore là. Il aurait suffi que 9 mois avant votre naissance, papa n'insista point trop contre la migraine ou la fatigue plus ou moins réelle et supposée de maman, vous ne seriez pas là. Où eût fini le spermatozoïde qui, en quelque chose, vous a composé, voyez. Il aurait suffi qu'il changeasse de position au moment suprême. Ce n'aurait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier à l'ovule. Vous ne seriez pas là. Quel dommage. Et donc, l'être humain, c'est le seul être qui sache qu'il aurait pu ne pas être. Voyez. J'ai une étudiante qui est en train de faire une thèse sur le syndrome du survivant. Vous avez entendu parler de cette affection psychologique assez douloureuse qu'éprouve par exemple celui des deux frères jumeaux qui a survécu, qu'éprouve par exemple le juif rescapé des camps ou le tzigane rescapé des camps, qu'éprouve l'homme ou la femme qui a survécu à un attentat alors que la plupart des autres membres du wagon ont disparu. Le syndrome du survivant, c'est une affection psychologique bien analysée par les psys, mais dans sa thèse, il se trouve qu'elle et la survivante d'un couple gemellaire, son frère jumeau est mort à la naissance et pas elle, mais il se trouve dans cette thèse, elle démontre très bien que le syndrome du survivant, ça n'est pas que l'affaire du frère jumeau qui a survécu, du juif ou du tzigane qui a survécu, ou de celui qui a survécu à l'attentat. Ce qu'elle explique fort bien, c'est que cela nous concerne tous. Pareil, tout enfant se demande quand il vient au monde, suis-je l'enfant que mes parents espéraient, voyez. Et donc, même si le syndrome du survivant n'est heureusement pas toujours vécu douloureusement, psychologiquement, comme on voit chez certains des hommes que je viens de nommer, il fait partie de la condition humaine. Suis-je digne d'être? Suis-je digne d'être? Voilà une question humaine absolument fondamentale, une question que nous avons tous en partage. N'ai-je pas pris la place de quelqu'un, voyez? C'est le sentiment d'une existence usurpée. Était-il bon que je sois? J'aurais pu ne pas être et en plus je ne serais plus. J'aurais pu ne pas être et je ne serais plus. J'aurais pu ne pas être, je n'ai pas demandé à être, hein. Je n'ai pas été consulté avant d'avoir été embarqué dans cette aventure. Hein. Mes parents n'ont pas dit « alors tu veux y aller ou pas ?» Je sais pas comment c'est, il y a des bons coups à boire, pourquoi pas, ah, il y a ça, ah oui, il y a ci aussi, bon, j'hésite un peu. Non, nous n'avons pas été consultés avant que d'avoir été embarqués dans cette aventure, nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. D'ailleurs, si nous pouvions, sans doute demanderions-nous des modifications, n'est-ce pas? Éventuellement légères, hein. Si parmi vous il y a des êtres qui sont contents d'être et à peu près contents d'être comme ils sont, ils ne demanderont que de légères modifications. Bon, je suis très content d'être, je suis très content d'être comme je suis, mais oh, juste si on pouvait me changer ce petit détail. Hein. Quand même, cette culotte de cheval, ça me gêne un petit peu. Ce petit détail. Hein. Bon, Il y a malheureusement peut-être parmi nous des aides qui veulent des modifications plus profondes, comme faisait chanter Gainsbourg à Jane Birkin dans la dernière chanson qu'il a composée pour elle. Avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Mais ce que je veux faire entendre, c'est que vous soyez hésitant quant à votre légitimité d'être ou rassuré, fondamentalement, ce qui singularise l'homme dans la création, c'est ça. C'est qu'il est l'être en quête d'une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est, d'une justification au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Vous voyez, suis-je digne d'être et suis-je digne d'être comme je suis? Et alors, c'est précisément pourquoi l'homme est un être pour la mort beaucoup plus radicalement que le phacochère ou que le dahlia. Je ne crois pas que le dahlia se dit « suis-je digne d'être ?» et « suis-je digne d'être comme je suis ?» Et puis cette aventure va s'arrêter. Quelle tristesse. Je ne verrai pas l'été prochain, je ne verrai pas l'hiver prochain. Non point. De même pour le phacochère ou pour l'animal, en tout cas pour l'animal moyen, qui est, s'installe et se prélasse dans l'existence une fois ses besoins satisfaits et qui ne se demande pas « suis-je digne d'être ? Est-il légitime que je sois et que je sois comme je suis ?» Et en effet, ce qui fondamentalement fait de l'homme l'être pour la mort, plus radicalement que les autres vivants, n'est-ce pas ? C'est précisément eh bien voilà, qu'il sait qu'il aurait pu ne pas être et qu'il sait qu'il ne sera plus. La mort qui habite l'homme rend l'homme inhabitable à lui-même, disait Heidegger. Et précisément, je dirais que l'angoisse fait partie de la condition humaine. Je disais que l'homme, c'est l'animal inquiet. À présent, il me faut dire que l'homme, c'est l'animal angoissé. L'homme, c'est l'animal angoissé. Précisément parce que l'angoisse, eh bien, c'est la morsure que le néant fait à notre âme. Voilà la définition que je vous propose de l'angoisse métaphysique. L'angoisse, c'est la morsure que le néant fait à notre âme. Car précisément, il y a un néant qui précède mon existence. J'aurais pu ne pas être. Et il y a un néant qui suit mon existence. Je ne serai plus. Eh bien, ces deux néants forment les deux mâchoires d'une mâchoire qui me serre l'âme, qui me mord l'âme. Vous voyez, n'oubliez jamais qu'angoisse vient de angustia en latin, qui veut dire le resserrement, l'étroitesse. Angustia venant soi-même du verbe latin angere, qui veut dire serrer, resserrer. Angere a donné angoisse, mais a donné aussi angine. Et une angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est toujours le resserrement. Voyez, bon. Donc l'angoisse, c'est le resserrement, l'étroitesse, alors que la joie, c'est la dilatation, l'ouverture. Voyez. Un homme angoissé, c'est un homme qui est centripète, qui est tendu, qui est réduit, dont le champ visuel se ferme. Alors qu'un homme joyeux, c'est un homme dilaté, centrifuge. Et voilà pourquoi Baudelaire est le grand poète de l'angoisse et La Fontaine, le grand poète de la joie. Baudelaire, grand poète de l'angoisse, oui, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Et La Fontaine, grand poète de la joie, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Alors je sais bien pourquoi le corbac ouvre un large bec. C'est parce que le renard veut le camembert qui s'y trouve et résultat, l'invite à chanter. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Autrement dit, classiquement, on dit que s'il a ouvert un large bec, c'est parce que le renard l'avait invité à chanter. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre un large bec. Mais selon moi, même s'il n'y avait pas eu de camembert dans le bec du corbac, je suis absolument sûr que le corbeau aurait ouvert un large bec en entendant les propos extraordinairement réjouissants que lui tient le renard. Car précisément, quand on n'est pas précisément le phénix des hôtes de ces bois, quand on n'est pas le plus sexy des oiseaux, et qu'un flatteur habile vous dit oh, « que vous êtes joli, que vous me semblez beau », eh bien, on ouvre un large bec. Imaginez que demain matin, à côté de la machine à café à l'hôpital, alors si vous avez l'habitude qu'on vous le dise, si vous avez l'habitude qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous dise, mais vous êtes ravissante, mademoiselle, que vous êtes jolie, que bon, ça peut lasser un peu, ça doit toujours faire plaisir, mais ça peut lasser un petit peu. Mais si vous n'avez pas l'habitude qu'on vous le dise, et qu'un flatteur habile arrive demain matin à côté de la machine à café en disant « Salut, salut, pourquoi tu me regardes comme ça ?»« Ben, je sais pas, t'as changé quelque chose ?»« Bon, non, je suis simplement allé chez le coiffeur. » Écoute, je sais pas, je te trouve un charme aujourd'hui. Oh, arrête, arrête. Non, sans mentir. Sans mentir. Que tu es jolie. Que... Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir un large bec. La joie, c'est la dilatation. Et quand vous aimiez quelqu'un et que vous n'espériez même pas qu'elle vous aima et qu'elle vous a dit « moi aussi, je t'aime ». Et puis la joie, c'est la jouissance. Et quand on jouit, on ouvre un large bec. Donc la joie, c'est la dilatation, l'ouverture, et l'angoisse, l'étroitesse, la fermeture. Et bien précisément, l'homme, c'est l'animal qui a la mort dans l'âme. L'homme, c'est l'animal angoissé parce qu'il a la mort dans l'âme. Être angoissé, c'est avoir la mort dans l'âme. Et nous avons toujours la mort dans l'âme. Nous avons la mort dans l'âme même quand nous n'avons pas la mort dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la mort dans l'âme ? L'expression, traditionnellement, désigne les moments où nous sommes particulièrement tristes, désespérés, chagrins. Cependant, même quand nous n'avons pas la mort dans l'âme, et personnellement, en ce moment, je n'ai pas la mort dans l'âme, enfin, tout le monde s'en fout, mais il fait beau, on a mangé des briques là, dans un Marocain qui était plutôt agréable. Enfin bon, je vais chez un ami très cher sans doute finir la soirée. J'espère qu'il y aura d'ailleurs une bonne bouteille peut-être déjà prévue. Bon. Donc, non, je n'ai pas la mort dans l'âme en ce moment. Eh bien si, j'ai quand même la mort dans l'âme, parce que je sais que j'aurais pu ne pas être et que je ne serai plus. Et donc, précisément, l'homme, c'est l'animal qui est voué à la mort, qui est voué au néant. Et alors, je dirais que c'est ça qui fait sa vulnérabilité fondamentale. Or, cette vulnérabilité, pendant notre vie, nous n'avons de cesse que d'essayer de la cacher, que d'essayer de la dissimuler. Vous voyez ? Nous étions fort fragiles et fort vulnérables quand nous sommes venus au monde. Vous me direz, là encore, c'est le lot de tous les vivants. Et cependant, l'homme est infiniment plus vulnérable et fragile dans les premiers temps de sa vie que le sont les animaux. Grande fragilité du petit homme, moindre fragilité du petit renard. Cela, d'ailleurs, fut très bien dit, cette vulnérabilité essentielle de l'homme, n'est-ce pas ? Cela fut très bien dit par un autre mythe grec, platonicien cette fois-ci, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Hein, je vous rappelle qu'une autre légende nous raconte qu'un jour, Zeus, le dieu des dieux, eh bien, fit venir à lui deux titans, fils de Japet, l'un comme l'autre, deux frères, donc, qui s'appelaient l'un Prométhée et l'autre Épiméthée. Et si Zeus a fait venir à lui Épiméthée et Prométhée, c'est pour leur confier une tâche forte importante. Il s'agissait de distribuer aux différents animaux les différentes qualités naturelles. Et très vite, Zeus de donner aux deux frères un grand sac, une sorte de besace, où se trouvaient toutes les qualités naturelles possibles et imaginables. Hein. La rapidité, la force, la capacité de changer de couleur, etc., etc. Très vite, Zeus dit à l'endroit des deux frères, « Attention, il faut que votre distribution des qualités naturelles soit équitable. Il faut qu'elle soit inspirée par la règle de Diké. » Diké qui veut dire en grec la justice et l'équité. Bref, ne donnez pas tout à un animal et rien à l'autre. Tout à l'autre et rien à l'un. Essayez d'assurer une sorte d'égalité des chances entre les différents animaux. Les deux frères s'en vont. Zeus aurait bien voulu que ce fût Prométhée qui fît le partage, car Prométhée possède un nom qui veut dire étymologiquement le prévoyant, le rusé, celui qui ruse, métisse, hein, avant, métisse, Prométhée, le prévoyant, le rusé. Mais chemin faisant, son frère Épiméthée, dont le nom signifie celui qui ruse après, Épiméthée, ce qui est un peu bête, hein, vaut mieux ruser avant qu'après, hein, bref, l'étourdi, eh bien, chemin faisant, Épiméthée dit à son frère Prométhée, « Allez, laisse-moi faire le partage, laisse-moi faire le partage. » J'en ai assez que ce soit toujours à toi que le grand patron confie les tâches intéressantes. Laisse-moi faire le partage. Et si tu veux, tu viendras en juger quand je l'aurai fini. Prométhée hésite un peu et finalement accepte que ce soit son frère Épiméthée qui fasse le grand partage des qualités naturelles. Alors dans cette célèbre histoire, hein, connue sous le nom de mythe de Prométhée et d'Épiméthée, assez peu de choses nous sont dites sur la lettre du partage. Comment cela s'est-il vraiment passé ? Platon ne le dit pas. Mais on peut imaginer, inventer que peut-être, après qu'il a donné la force au lion, eh bien, Épiméthée a dû se dire que du coup, il n'aurait pas besoin d'une rapidité extraordinaire. Donnant la rapidité à la frégate, le plus rapide de tous les oiseaux, sans doute Épiméthée s'est-il dit que donc elle n'aurait point besoin de carapace. La tortue, qui dans le grand partage des qualités naturelles reçoit la carapace, n'aura donc pas besoin de venin. L'aspic qui reçoit des mains épiméthéennes, le venin n'aura donc point besoin de cette capacité de changer de couleur qui va échoir au caméléon, lequel, ayant la capacité de changer de couleur, n'aura donc besoin ni de venin, ni de carapace, ni de rapidité, ni de force. Vraiment, Épiméthée a fait un bon partage. Et c'est bien l'impression qu'a Prométhée quand il rapplique, qui approuve en tout la distribution fraternelle. Bravo, dit Prométhée à Épiméthée, bravo, la diké t'a inspiré. Mais c'est alors, nous dit Platon, que les deux frères virent arriver devant eux un étrange animal. Cet animal que Platon nomme dans un autre dialogue le bipède sans plume. Le bipède sans plume, c'est-à-dire l'homme. On n'est pas les seuls bipèdes de la création. Hein. Mais les autres ont des plumes. Et nous, pas. Enfin, généralement pas. Sauf dans des circonstances et à un endroit de l'anatomie que je ne nommerai pas ici. Bref, arrive l'homme devant les deux frères et Épiméthée demandait à Prométhée et alors à lui, que vas-tu donner ? Épiméthée reprend son grand sac et oh, mon Dieu, ou plutôt mon Zeus, se rend compte que le sac est vide. Étourderie d'Épiméthée qui n'a pas de qualité naturelle à donner à l'homme. Étourderie d'Épiméthée qui fait que l'homme, en ses premiers commencements, est le plus fragile, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant de tous les vivants. Évidemment, sous cette étourderie d'Épiméthée, rien d'autre qu'une étourderie de la nature, si l'on ose dire. La nature qui, précisément, fait de l'homme, en ses premiers commencements, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus fragile, le plus dépendant de tous les vivants. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est l'animal pauvre en instinct. L'animal vient au monde riche d'un instinct, qui est un viatique sûr dans la vie. L'homme vient au monde non pas sans instinct, car nous avons par exemple l'instinct de succion et deux, trois instincts qui quand même nous aident à vivre et sans lesquels nous mourrions. Mais cependant, nous venons au monde si pauvres en instinct que nous sommes tout près d'y mourir après même y être nés, si précisément les autres ne s'occupent pas de nous, vous voyez. Hein. Oui, l'instinct, eh bien, qu'est-ce que c'est ? L'instinct, eh bien, c'est ce que la nature donne à un homme pour lui permettre de trouver les chemins de sa survie. Quand la nature, à un animal, pardon, pour lui permettre de trouver les chemins de sa survie. Quand la nature donne à une bête un besoin, elle lui donne en même temps les moyens qui permettent de le satisfaire, vous voyez ? Et l'ensemble des moyens naturels qui permettent de satisfaire les besoins, cela se nomme l'instinct. Mais à l'homme, la nature aussi a donné des besoins, mais sans lui donner les moyens permettant de les satisfaire. Je prends deux exemples pour être plus clair. Voilà deux besoins que nous avons en partage avec les animaux. Le besoin thermique et le besoin sexuel. Eh bien, le besoin thermique, il fait froid. La bise est venue. Eh bien, regardez, après que la bise est venue, comme dit La Fontaine, regardez ce premier animal ralentir ses battements cardiaques, descendre dans les profondeurs de la terre et y hiberner pour quelques semaines ou quelques mois. Regardez, après que la bise est venue et qu'il fait froid, ce deuxième animal migrer vers les régions où il fait plus chaud. Regardez, après que la bise est venue, ce troisième animal se transformer et se bâtir un admirable plumage et ce quatrième un admirable pelage. Oui, avec plus de poils pour le quatrième, plus de plumes pour le troisième, en migrant pour le deuxième et en hibernant pour le premier, eh bien, voilà quatre animaux qui vont échapper au froid. Mais nous autres hommes, nul instinct ne nous fait hiberner. Hein, il ne faut pas mettre sur le même plan le roupillon du collégien en hiver au fond de la salle et l'hibernation animale. Pourquoi ? Parce que la maîtresse peut réveiller le collégien qui roupille. C'est un peu difficile. Hein. Hey, qu'est-ce que j'ai dit, François ? François ! Hein ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, on peut réveiller un collégien qui roupille en hiver, on ne peut pas réveiller un animal qui hiberne. De même, nul instinct ne nous fait migrer vers les régions chaudes au moment où il fait froid. Ne mettez pas sur le même plan la migration saisonnière des vieilles dames riches du 16e arrondissement qui quittent Paris en hiver pour aller passer quelques mois à Nice et la migration des hirondelles. Pourquoi ? Parce que l'hirondelle ne peut pas ne pas partir. À l'origine de sa migration, il n'y a pas une délibération consciente dont les prémices seraient qu'ici on se les gèle, deuxième prémisse qu'il fait chaud au Maroc, je l'ai vu à la météo, et la conclusion qu'il faut y aller, et si possible en groupe, pour que le voyage soit plus agréable. Non, non, précisément, l'hirondelle migre parce qu'elle ne peut pas ne pas migrer. En revanche, il est possible à la vieille dame riche de ne pas aller à Nice en hiver. D'ailleurs, cette Hiver, elle ne va pas y aller parce qu'elle organise le mariage de sa petite fille. Donc, elle va rester à Paris. Enfin, nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été. Enfin, sauf s'il y a des modes épilatoires qui font que cela peut arriver à certains, certaines d'entre nous. Mais ceci dit, la nature ne nous a pas protégés du froid. Deuxième exemple, pour dire la différence entre la richesse en instinct de l'animal qui, en un sens, le rend moins vulnérable que nous et notre pauvreté en instinct qui nous rend plus vulnérables que lui, ce besoin qu'on dit sexuel. Eh bien, j'ai un ami ornithologue qui me disait l'autre jour, il ne faut pas dire que le paon fait la roue pour séduire la femelle. Car si tu dis pour, tu laisses à croire que le paon sait ce qu'il fait. Autrement dit, que le paon, voyant passer quelques belles femelles paon, voyant passer quelques belles pannes, j'ai vérifié, une femelle paon, ça s'appelle une panne. Bon, c'est pas très, un terme très bien choisi quand il s'agit de parler de la bagatelle amoureuse, mais enfin, c'est ainsi. Voyant passer quelques belles pannes, le paon se dirait, que faire? Je ne suis pas le phénix des hôtes de ces bois, comment lui plaire? Et le paon de se rappeler tout d'un coup qu'il a des plumes aux croupions qui font l'admiration de tous les passants. Et le paon de se dire, mais si je les déployais largement, bref, si je faisais la roue, et si je passais plusieurs fois devant la femelle paon, comme j'ai vu les adolescents humains faire en scooter, devant les adolescentes humaines, devant le lycée au moment de la récré, j'aurais quelque chance de lui plaire. Mais non, là encore, il ne faut pas dire que le paon fait la roue pour, il faut dire que le paon fait la roue et, parce qu'il ne peut pas ne pas la faire. Et cet ami ornithologue l'a remarqué en laboratoire, au moment de la saison des amours, les femelles paon, les pannes donc sont en chaleur. Résultat, elles émettent, je ne sais pas moi, des bruits, des odeurs, des couleurs qui excitent les paons. Cette excitation se traduit par une montée du taux de testostérone et cette montée du taux de testostérone entraîne incontinent, ça veut dire tout de suite, entraîne incontinent, boum, le déploiement de la roue. Mais nous autres hommes, eh bien, nous aussi, nous avons ce besoin qu'on aime sexuel, qu'on nomme sexuel. Mais que faire? Que faire? Dès qu'elle est entrée dans la salle, ce fut une apparition, comme on dit chez Flaubert. Hein. Dès le premier cours de seconde, eh bien, elle est arrivée et ce fut une apparition. Mais les jours passent, les semaines passent, et on est un petit peu dans la chanson d'Yves Montand à bicyclette. Hein. J'oserai, j'oserai demain. Oubliez la bicyclette, oubliez un peu les copains. J'oserai, j'oserai demain prendre furtivement sa main. Bon. Et alors, ça fait plusieurs fois qu'il est sur le point de lui parler, mais il hésite, il reporte. Il ne veut pas que les autres le voient. Et puis, un soir, fin novembre, dans le doux crépuscule, après le cours de musique, ou le cours de grec, ou le cours de latin, alors que tous les blaireaux ont quitté le lycée, eh bien, il ose lui parler. C'est pour ça qu'il faut faire du latin et du grec et de la musique. Hein, pour... C'est qu'il y a une espèce d'aristocratie de ceux qui ont encore cours de 5 à 6. Hein. Et alors là, il lui parle, elle l'écoute. Le climat est doux. Enfin, il se passe peut-être quelque chose. Et il ose lui dire qu'il aime bien parler avec elle. Oui, moi aussi. Tu n'aimerais pas qu'on se retrouve en dehors du lycée demain? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais demain après-midi? Je ne sais pas. Bah écoute, on peut se retrouver chez Bébert, c'est un estaminet Poitevin. Ça veut dire un bistrot du coin, c'est un estaminet Poitevin. Retrouvons-nous chez Bébert vers 15h, d'accord. Ils se disent au revoir. Et alors, bon, très content, la veille, il prépare au brouillon la rencontre amoureuse. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est quand on a une rencontre importante, on ne peut pas s'empêcher de la préparer. Or, ce qu'il faut tout de suite savoir, c'est que ça ne se passera pas du tout comme on a prévu que ça se passerait. Il a par exemple prévu qu'à un certain moment, il lui citerait le poème de Gérard de Nerval qu'il connaît. C'est le seul qu'il connaisse d'ailleurs. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, la tour abolie, ma seule étoile. Ça fera bien. Parce que c'est la meilleure en français de toute la classe. Et moi, pas vraiment. Il faut que je fasse oublier mon côté un peu fouteux. Hein, je suis arrière droit dans l'équipe de foot, dans l'association sportive du lycée, avec ce que cela suppose, n'est-ce pas, de chaussettes sales au coin du vestiaire et de concours d'éructation après qu'on a bu quelques boissons gazeuses. Donc, si je lui cite du Gérard de Nerval, là, je vais l'émouvoir. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai ce geste que j'ai vu Yves Montand faire dans César et Rosalie. Ah, ça, c'est le charme même. Et dans un troisième temps, je la regarderai comme mon cousin qui, lui, a la tchatche chez toutes les filles qu'il veut, alors moi, je n'en ai encore eu aucune. Eh bien, je la regarderai et je lui dirai qu'elle me trouble et que je l'aime. Ah, voilà, ça marchera très bien. Il arrive dans l'estaminet Poitevin, il prévoit de faire ces trois choses, mais ça ne se passe pas comme il aurait voulu que ça se passe. Parce que précisément, au moment où il lui cite le Gérard de Nerval, il y a tellement de bruit dans le bistrot, ce qu'il n'avait pas prévu, qu'elle ne l'entend pas. Attends, parle plus fort, j'entends pas. Résultat, non, il laisse tomber le Nerval. Un poème d'amour, ça ne se hurle pas. Ça se susurre à l'oreille, comme disait mon maître Henri Salvador. Tout doucement, donc il laisse tomber le nerval. Au moment où il fait le geste qu'il a vu Yves Montand faire dans César et Rosalie, à ce moment précis, le garçon passe avec son plateau. Et c'est la catastrophe, il fait tomber le verre. Il y en a partout, vous savez, cette grande solitude qu'on éprouve quand tout le café s'arrête pour regarder le responsable du bris de la glace. Et puis ensuite, il devrait la regarder comme son cousin, lui dire, mais il n'arrive pas. Et plus le silence s'installe, plus il n'arrive pas à le désinstaller. Vous voyez, en fait, ce silence, il est bon signe. C'est le signe qu'elle aussi est troublée, qu'elle aussi a peur. Le silence ne serait pas installé si elle n'était pas aussi troublée. Mais le problème, c'est que les adolescentes cachent aux adolescents qu'elles ont peur et que nous vous cachions que nous avons peur. Résultat, ce silence qui est bon signe, moi, c'est ce que j'appelle ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Ce silence, eh bien, il croit qu'il ne révèle rien d'autre que sa médiocrité en matière de séduction et il va rater cette occasion qui pourtant était toute tendue. Eh bien, voilà deux exemples. Oui, nous sommes pauvres en instinct. Et résultat, nous avons des besoins, mais nous n'avons pas les moyens permettant de les satisfaire. Voilà ce qui fait, là encore, notre vulnérabilité. Alors, on se rappelle, c'est la fin de l'histoire, que pour ne pas laisser l'homme dans cette situation catastrophique où Épiméthée l'avait plongé, Prométhée va avoir une idée. L'idée de monter sur l'Olympe pour y dérober aux dieux des qualités qu'on pourrait dire en un sens surnaturelles, parce qu'elles ne se trouvaient pas dans la besace épiméthéenne. Qu'est-ce que va dérober Prométhée à Dieu? Il veut dérober trois choses aux dieux: le feu, l'intelligence technique et l'art politique. On se rappelle que sans trop de difficultés, Prométhée va arriver à dérober à Héphaïstos ou Vulcain le feu qu'il possède. Donner le feu à l'homme, c'est lui donner quelque chose d'assez extraordinaire. C'est grâce au feu que l'homme, d'abord tout fragile, est devenu le roi de l'univers, le seigneur de l'être, comme nous dit à la fois Heidegger, mais aussi Kipling dans le livre de la jungle, où précisément le singe King Louis fait venir Mowgli à lui en disant « Il est venu à nos royales oreilles que tu connaissais le secret de la fleur rouge des hommes. Dis-le-moi et comme ça je deviendrai le roi de la jungle. » Et puis c'est grâce au feu que le fragile Mowgli l'emporte contre le puissant Shere Khan. Donc donner le feu à l'homme, et les préhistoriens nous le diront, c'est lui donner déjà beaucoup. Mais bon, le feu tout seul, c'est pas suffisant. Si vous donnez le feu à l'homme, c'est pas suffisant. Si vous donnez le feu à une huître, par exemple, c'est pas ça qui va la transformer en reine de l'univers, en seigneur de l'être. Quoique d'après mon maître Jean-Pierre Coff, un autre de mes maîtres, les huîtres chaudes soient un plat qui n'est pas sans intérêt, avec un petit peu de vin blanc et un tout petit peu de vinaigre et de citron, c'est babal. Donc le feu, pas suffisant, et donc voilà pourquoi Prométhée va décider de dérober à Athéna, qui la possède, l'intelligence technique, l'intelligence dans les besoins de la vie, si on traduit Platon avec rigueur. Le feu plus l'intelligence technique, ah, ça c'est pas mal. Mais Prométhée veut dérober aux dieux une troisième qualité surnaturelle, qui est l'art politique, cet art politique qui permet de faire en sorte que tout homme trouve sa place dans la société humaine. Malheureusement, quel est le dieu qui possède l'art politique? Zeus lui-même. Zeus lui-même, dont les appartements sont si bien surveillés que jamais Prométhée n'arrivera à dérober à Zeus l'art politique. Ce qui fait qu'en matière d'art politique, en moyen de donner à tout homme sa place dans la cité humaine, eh bien nous ne serons jamais que des bricoleurs. Nous n'arriverons jamais à créer une société parfaite. Et donc, Prométhée de redescendre de l'Olympe, n'ayant réalisé que la moitié, ou plutôt que les deux tiers de son projet, il donne à l'homme le feu, l'intelligence technique, mais non point l'art politique. Qu'est-ce qui nous est murmuré dans cette histoire? Deux choses: que la vulnérabilité, la précarité, la fragilité, la dépendance, eh bien ce ne sont pas des signes d'inhumanité, mais au contraire des signes d'humanité. Être fragile, précaire, vulnérable, dépendant des autres, ce n'est pas des dysfonctionnements qui arriveraient à l'homme, lequel serait ontologiquement un être fort, invulnérable, puissant et indépendant. Tout au contraire, la dépendance, la vulnérabilité, la précarité, la fragilité, elles font partie de notre condition d'homme. Et le premier enseignement du mythe nous invite à dire précisément, eh bien, les hommes en fin de vie, fragiles, précaires, vulnérables et dépendants, non pas moins humains que nous, mais en un sens plus humains que nous, montrons le véritable visage qui est le nôtre. Voilà le premier enseignement du mythe. Le deuxième enseignement du mythe, c'est que la technique est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, car si Prométhée n'avait pas dérobé aux dieux le feu et l'intelligence technique, c'est-à-dire la technique, parce que le feu, c'est la première technique. Hein. Bref, si Prométhée n'avait pas dérobé aux dieux la technique, eh bien les hommes seraient morts. Et donc, vive les techniques, qui précisément font que, eh bien, finalement, on va échapper au froid, alors qu'on n'est pas plus poilu en hiver qu'en été, alors qu'on n'a pas, on ne migre pas instinctivement, alors que n'hiberne pas instinctivement. Grâce à la technique, nous allons précisément, eh bien, frotter des silex et dérober à l'ours sa peau, hein, non pas avant de l'avoir tué, bien sûr. Et puis progressivement, nous allons inventer, enfin voilà, la chaleur. Et même en temps de bise, eh bien, nous n'avons pas froid, du moins en Occident. Voyez, vive les techniques qui vont permettre précisément à notre apprenti séducteur de tout à l'heure, eh bien, quelques années après, de ne pas laisser passer la si belle occasion qu'il avait laissée passer. Hein, il va acquérir des techniques de séduction, des techniques qui vont lui permettre de détecter si c'est le moment de prendre la main ou pas. Et résultat, eh bien, oui, il aura en effet le moyen de satisfaire ses besoins sexuels. Et plus généralement, et plus proche de notre sujet, vive les techniques médicales qui font qu'aujourd'hui les hommes vivent beaucoup plus longtemps qu'avant, qui font qu'aujourd'hui il est rare que les femmes meurent en couche, en Occident là encore, que la plupart des bébés, eh bien, sont pris en charge et ne meurent pas à la naissance, qui fait, vive les techniques qui font que, eh bien, la douleur, la faim et le froid ont quasiment disparu de la surface du monde occidental. Quasiment, ça ne veut dire pas complètement. On a tous en mémoire des hommes qui ont faim, qui ont froid et qui ont mal. Il y a des douleurs rebelles. Mais cependant, quel progrès ! Vive la technique ! Et je crois que le premier devoir des soignants, c'est d'essayer d'inventer de nouvelles techniques, de raffiner leurs techniques de manière à ce que ça continue, cette merveilleuse conquête qui fait qu'aujourd'hui, je le répète, nous vivons de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. L'espérance de vie sans handicap majeur croît plus vite que l'espérance de vie avec handicap. Bref, il y a de plus en plus de, évidemment, quinquagénaires, sexagénaires, mais aussi septuagénaires, mais aussi octo, mais aussi nonagénaires et peut-être centenaires qui vivent bien, qui vivent bien. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que bientôt, un savant à blouse blanche dira, ça y est, je suis maître et possesseur du virus VIH ou HIV. Je crois qu'aujourd'hui, les médecins le maîtrisent mieux qu'avant, mais quand même pas complètement. J'espère, pour parler d'une maladie qui me touche de près, mais de très près, que bientôt un savant à blouse blanche se lèvera et dira « ça y est, je suis maître et possesseur de cette maladie neurodégénérative qu'on nomme la sclérose en plaques ou qu'on nomme la maladie d'Alzheimer, etc. » Donc incontestablement, nous avons fait reculer la vulnérabilité, la fragilité, la précarité et la dépendance. Et cela, c'est une merveille. Cependant, si les techniques sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. C'est le deuxième enseignement du mythe qui consiste à dire que 1 et 2 ne peuvent pas tenir lieu de 3. Que le feu et l'intelligence technique, ça ne peut pas remplacer l'art politique. L'art politique qui a pour but de donner à tout homme sa place dans le monde. Et précisément, à coup de technique, à coup de diplôme, à coup de costume, à coup de comédie sociale, eh bien, nous allons passer une bonne partie de notre temps à essayer de dissimuler que nous sommes vulnérables, fragiles, précaire et dépendant. Et précisément, quand on rencontre certains hommes, en effet, maître de lui comme de l'univers, de sa parole, de ses sphincters, de sa mémoire, de ses effets de séduction, en effet, puissant économiquement, puissant intellectuellement, puissant sexuellement, puissant en tout domaine, eh bien, on a l'impression que cette vulnérabilité, cette précarité, cette fragilité qui serait le vrai visage de l'homme, eh bien, ont complètement disparu. Nous passons notre temps à essayer de dissimuler tout cela. Et je crois que c'est normal qu'on essaie de le dissimuler. Oui, la vie sociale est en effet un lieu où nous jouons la comédie de l'invulnérabilité, de la puissance, de la richesse, de l'indépendance. Et c'est, en un sens, normal. Il serait absurde de reprendre à son compte quelques discours, n'est-ce pas, valorisant la souffrance, discours à mon avis qui n'a aucun rapport avec le véritable esprit du christianisme, mais enfin, il serait absurde de reprendre à notre compte cette valorisation de la précarité, cette valorisation de la souffrance, cette valorisation de la dépendance, de la vulnérabilité, et il serait absurde de faire honte à la puissance, à la beauté, à la santé, à la richesse, à l'indépendance. Non, tout ça, ce sont des qualités. La santé vaut mieux que la maladie, l'invulnérabilité vaut mieux que la vulnérabilité, la force vaut mieux que la fragilité. Et donc, oui, Nietzsche a raison de critiquer tous ces idéaux qui culpabilisent la beauté, la santé, la joie, la force. Je crois aussi qu'il est normal que nous cachions un peu nos vulnérabilités, nos fragilités, nos précarités. La société est un espace dans lequel la vie est jouée plutôt que véritablement vécue, n'est-ce pas ? Du matin au soir, nous sommes grimés, masqués, et nous jouons aux autres la comédie de l'invulnérabilité, de la force, de la puissance et de l'indépendance. Vous savez ça, hein, que la société est un espace dans lequel la vie est jouée plutôt que véritablement vécue. Nous passons notre temps à jouer. En société, nous sommes grimés. Tout vêtement est un déguisement. Alors évidemment, si nous étions jour de carnaval et que la moitié de l'assemblée fut venue avec qui une toge, qui un habit du temps de Louis XV, qui un habit du temps de Louis XVI, ça vous irait très bien. Et puis, imaginons que l'autre partie de l'assemblée fût venue avec les mêmes vêtements que la veille. Enfin, les mêmes vêtements que la veille, le même genre de vêtements que la veille, parce que quand même, l'hygiène a ses droits, et donc nous, nos devoirs. Mais on dirait naïvement, eux ne sont pas déguisés, eux sont déguisés. Taratata, tout vêtement est un déguisement, c'est-à-dire l'invention d'une nouvelle guise, d'une nouvelle manière d'être. Et nous ne nous habillons pas que pour des raisons immédiates de climat ou de pudeur. Nous nous habillons pour donner une certaine image de nous-mêmes. Nous vivons déguisés, grimés, et je dirais que nous jouons, chacun d'entre nous joue plus de rôles en une journée que le comédien le plus engagé en une année. Un comédien très engagé, je ne parle pas d'Anémone, hein, qu'on ne voit plus jamais, mais un comédien très engagé qui aujourd'hui, j'oublie les noms, Johnny Depp ou je ne sais qui, eh bien, va peut-être jouer 5 rôles en une année. Va faire 2 films, 2 téléfilms et une pièce de théâtre, c'est déjà bien. Mais chacun d'entre nous joue plus de 5 rôles en une journée. Et précisément, nous ne sommes pas le même le matin au petit déjeuner chez nous et dans le bureau du patron. Dans le bureau du patron et au café et dans le club de gym. Et de même que les règles du jeu ne sont pas les mêmes à la belote et au bridge, de même les règles du jeu ne sont pas les mêmes au bistrot et dans le bureau du patron. Par exemple, au bistrot, il y a une règle du jeu qui fait que si on vous présente dans l'estaminet tout à l'heure, parce qu'il y a une cohérence dans mon exposé, l'air de rien, on vérifiera tout à l'heure, dans l'estaminet tout à l'heure, dans... bon, eh bien, si on vous présente le poivreau du coin, Bébert, il dit, tiens, tu connais pas Bébert ? Il faut pas lui dire, enchanté de faire votre connaissance. Ça n'ira pas du tout. Hein. Bébert va dire, bah, attends, tu m'appelles Bébert, qu'est-ce que tu racontes ? Là, puis tu me tutoies, il est gros, lui. Alors, ceci dit, si votre patron s'appelle Robert, les règles du jeu font qu'il ne faut pas, dans le bureau de votre patron, dire « Salut Bébert !» Ça n'ira pas non plus, vous voyez. Nos enfants devinent avec qui nous sommes au téléphone, même s'ils ne le savent pas de source sûre, parce que nous adaptons notre voix à notre interlocuteur. Il y a un mimétisme spontané qui fait que vous n'avez pas la même voix quand vous êtes au téléphone avec votre belle-mère et quand vous êtes au téléphone avec votre meilleur ami. Moi, quand j'ai un de mes bons copains au téléphone, quand j'ai Alain au téléphone, mes enfants le savent tout de suite parce que je prolonge les syllabes. Salut, allez, bonne soirée. Parce qu'en fait, il fait comme ça. Et moi, je fais comme lui. Quand j'ai ma belle-mère au téléphone, le ton est autre, n'est-ce pas ? Et donc, nous jouons tout le temps, nous jouons la comédie tout le temps. Et cela fut dit par un grand comédien, mais aussi un grand philosophe, Michel Galabru, récemment. Interviewé par la confesseuse des temps modernes, je nomme Mireille Dumas. À un certain moment, elle lui demande « Mais pourquoi vous avez voulu être comédien ?» Il dit « J'ai voulu être comédien parce que je me suis rendu compte que tous les êtres humains jouaient. Ils jouent tout le temps. Ils jouent tout le temps. Mais ils jouent mal. Moi, j'ai voulu jouer bien. Voilà pourquoi. » Alors à ce moment-là, elle lui dit « Mais oui, mais il doit y avoir d'autres raisons. »« Ben oui, il y en a une autre. Vous l'avez sous les yeux. » »« Comment ça ?»« Avec la tronche que j'ai, ce tarbouif infâme, je suis obligé de jouer la comédie. » Si j'avais la gueule de Delon, j'aurais pas besoin de jouer. J'arrive, les filles, ça y est, tombe. Mais avec cette gueule-là, j'ai obligé de jouer, obligé. Mais de toute façon, tout le monde joue. Et on joue pas seulement sur scène, on joue tout le temps, tout le monde joue. Alors Mireille Dumas dit, mais il doit bien y avoir des moments où l'être humain arrête de jouer. Galabru dit, quand ça ? Et elle lui dit, bah, je ne sais pas, dans l'amour. Et Galabru, alors là, point du tout, encore plus. Je t'aime, moi non plus, comme dit l'autre. On fait semblant. Ah oui, bien sûr. Comme disait Guitry, il y a bien un moment, on ne peut plus faire semblant. Alors c'est la légende un peu macho. La supériorité que les femmes ont sur nous, c'est qu'elles, elles peuvent faire semblant. Et Galabru d'ajouter, mais avec le Viagra, on peut faire croire à une dureté naturelle alors qu'elle est artificielle. Non, on joue tout le temps. Et Mireille un peu dépitée de dire, mais il y a bien un moment où l'être humain arrête de jouer. Et Galabru de dire, ah oui, quand il dort. misérable lutte pour la vie de la mécanique humaine. C'est beau comme du Cioran, ça. Hein. Galabru, petite remarque en bas de page, c'est un type que je crois profondément intelligent, une intuition, c'est un grand philosophe. L'autre jour, il parlait à la télé de Belmondo, et il disait, il était très beau, il était pas beau, mais beau tout de même, parce qu'il avait le muscle beau, parce qu'il y a des athlètes, mais ils ont le muscle vulgaire. Alors que lui, il avait le muscle fin, il avait le muscle aristocratique. C'est intelligent, ça. Un jour, il parlait de Louis de Funès et il disait, c'était un comédien extraordinaire, c'était un jour, il imitait une poule, on tournait, et à un moment, il imite la poule. Et alors, mon de Funès, il savait faire l'œil à la fois inquisiteur et bête de la poule. Ça, c'est génial, l'œil à la fois inquisiteur et bête de la poule. Eh ben, mon Louis, il savait faire. Bon, alors, bref, je parle de Galabru, donc dit quand il dort, l'homme arrête de jouer. Misérable lutte pour la vie de la mécanique humaine. Moi, il me semble qu'il y a deux autres moments évidents où l'homme ne joue plus. C'est quand il est mort et quand il souffre. Il n'y a pas que quand il dort que l'homme ne joue pas la comédie. D'ailleurs, on n'aime pas être vu en train de dormir, parce qu'on joue la comédie tout le temps, mais quand on dort, on a la bouche ouverte, on est abandonné, on est passif, on est voué à une passivité et donc à une forme de vulnérabilité, n'est-ce pas ? Or, il y a un autre moment où l'homme ne peut plus jouer, c'est quand il souffre, précisément. C'est quand il souffre. Et la véritable souffrance, eh bien, c'est précisément l'impossibilité de souffrir. L'impossibilité de jouer, pardon. La véritable souffrance, c'est ça. Je ne connais pas d'autre définition sérieuse de la souffrance que celle-ci. Souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. C'est ne plus pouvoir jouer la comédie de la maîtrise, de l'activité, de l'indépendance, de la force et de l'invulnérabilité. Non. Souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. Alors, bien sûr, vous me direz qu'on peut parfois jouer à souffrir. On peut faire semblant de souffrir. Pour attirer la pitié des autres, éventuellement. C'est ce que fait le comédien Kean dans la pièce éponyme d'Alexandre Dumas, réécrite par Jean-Paul Sartre. Kean, c'est un immense comédien et un coureur de jupons invétéré. Il a eu, tel Don Juan, 1003 femmes, et il pense bientôt pouvoir ajouter un 1004e nom sur le catalogue tenu par son Leporello de Valais, parce qu'il a repéré, il joue tous les soirs le rôle d'Othello au théâtre de Drury Lane à Londres, il a repéré dans une loge sur l'avancée une ravissante jeune femme qui est toujours là tous les soirs et qui le regarde avec des yeux brûlants d'admiration et donc d'amour et qui l'applaudit toujours debout. Il se dit « c'est bon ». Il l'invite dans sa loge. Il lui fait son numéro habituel et au moment où il est sur le point de l'étreindre, étrangement, elle se dérobe. Il n'a pas l'habitude de cela, Kean. Elle se dit, non, Kean, mais enfin, non, Kean, si je me donne à vous, je serai la 1004e et très vite, vous m'oublierez. Non, Kean. Et puis, tout est si facile pour le grand Kean. Vous avez tout. Rien ne vous résiste. Il est bon qu'il y ait quelques résistances en votre vie. Et alors là, Kean, sentant qu'il n'a pas plu par son jeu positif, va jouer un jeu négatif. C'est-à-dire qu'il va changer de stratégie et il va dire « Ah, vous croyez que tout est toujours facile pour le grand Kean ? Mais non. Quand j'entrais sur scène au début de ma carrière où je jouais des petits rôles, tout le monde me portait, tout le monde m'aimait, tout le monde m'aidait. Maintenant, toute la responsabilité du spectacle repose sur mes épaules. Et si on me met si haut, c'est pour avoir la chance de me voir tomber. Et vous croyez que tout est facile pour le grand Kean ? Non. » Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Plus tard, j'ai guetté l'amante à l'œil moqueur. Là, il lui cite du Cyrano de Bergerac, mais puisqu'elle est un peu inculte, elle ne se rend pas tout à fait compte. Et puis alors, il dit, vous ne savez pas comme je souffre. Et il se jette aux pieds de Miss Dambi, de la belle. Il prend sa tête entre ses mains et il s'écrie, en prenant trois tons différents, je souffre comme un chien. 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 Et alors, elle est tellement émue qu'elle est sur le point de se donner à lui. Et la Kean, dans un sublime moment de sincérité, répond « Laquelle de ces trois intonations préférez-vous, Miss Dambi ?» Ça prouve qu'il ne souffrait pas, mais qu'il jouait à souffrir. Autrement dit, oui, quand on ne souffre pas vraiment, on peut jouer à souffrir. Mais ça prouve qu'on ne souffre pas vraiment. Il arrive parfois à l'adolescente, qui veut intéresser tout le monde, de faire croire qu'elle a toujours mal à la tête alors qu'elle n'a plus mal à la tête. Elle s'est cognée. Tout le monde se précipite vers elle. Oh, Isabelle ! Mais il arrive que la douleur qui monte très haut refoule très vite. Mais elle se rend compte que si elle dit « Non, non, j'ai plus mal », tout le monde va la laisser. Elle continue « Oh non, j'ai vachement mal, non, je sais pas. Tu veux qu'on t'emmène aux urgences ?» Alors, « Oh non, non, ça ira, etc. » Bon. Donc il arrive, quand on ne souffre pas, de jouer à souffrir. Mais la vraie souffrance, c'est ce qui fait qu'on ne peut plus jouer, précisément. Et c'est la seule définition sérieuse de la souffrance. Et qui l'a bien dit? Jean Cocteau. Jean Cocteau, eh bien, a tenu son journal de La Belle et la Bête pendant qu'il tournait La Belle et la Bête. Ça a été édité aux éditions du Rocher et c'est un chef-d'œuvre. Et Jean Cocteau explique ce que c'est que la véritable souffrance. Alors, il est entré à l'hôpital, il a fallu arrêter le film. Le 10 mars 1945, Cocteau doit arrêter le tournage parce qu'il souffre le martyr, comme on dit. Il souffre à la fois d'un phlegmon, d'un impétigo, d'une trachéite et d'un anthrax. Je parle sous le contrôle des plus savants que moi, c'est pas difficile en matière de sciences médicales. Un anthrax, c'est une pullulation de furoncles sur tout le visage et tout le cou. Et alors, parce que nous sommes en 1945 et que la France se relève à peine de la catastrophe, eh bien, il y a très peu de pharmacopées efficaces. On n'a pas de pénicilline, on n'a pas de cortisone, et du coup, il souffre, et il a quand même la force de tenir son journal, et à un moment, il écrit, c'est à la page du 15 avril 1945, dans le journal de La Belle et la Bête, aux éditions du Rocher, que vous allez vous précipiter d'acheter et de lire après cette causerie vespérale. Causerie vespérale, c'est une conférence qui a lieu le soir. Hein. Et donc, ne soyez pas impressionnés. Et donc, il écrit, voilà, « Souffrir est autre chose ». La vraie souffrance ne peut pas s'apprivoiser dans des images heureuses. La vraie souffrance, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. C'est bouleversant, ça. La vraie souffrance, c'est ce qui fait un être se recroqueviller en coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et Cocteau, à ce moment-là, analyse l'expression « souffrir comme une bête » à laquelle il donne précisément son sens véritable. Précisément parce que, qu'est-ce que ça fait une bête? Une bête, ça ne parle pas à la manière de Nerval. « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Vous qui accompagnez des mourants, vous qui avez accompagné des vieillards en fin de vie, il m'étonnerait que vous les ayez souvent entendus poétiser à la manière de Nerval. Je suis le veuf, le ténébreux. » L'inconsolé, le prince d'Aquitaine. Non, non. La plupart du temps, ce qui reste, c'est précisément la langue des bêtes. Et c'est quoi la langue des bêtes? C'est le cri? C'est le halètement? C'est le gémissement? Ou c'est le silence? La plupart des bêtes n'ont pas la phonée, n'ont pas la voix. Et il y a des êtres qui, en fin de vie, souffrent à n'en pouvoir le dire, à n'en pouvoir se plaindre. Et alors Cocteau, précisément, a l'impression de comprendre l'expression « souffrir comme une bête », précisément parce qu'étant donné qu'il a des furoncles partout, il peut plus se raser. Et résultat, la barbe lui pousse. Et à un certain moment du journal, il se regarde dans la glace, dans le miroir, et il a l'impression de voir la gueule de la bête. Et c'est là que, dans son délire génial de poète, il imagine que c'est Jean Marais, Jeannot, son copain, qui le punit. Hein. Lui, si beau, il l'a rendu si laid en lui mettant le masque de la bête. Et bien maintenant, c'est moi qui me transforme en bête. Et alors, vous tournez la page. Cette fois-ci, on est au 17 avril 1945. Et précisément, il appelle. Et voilà ce qu'il écrit. J'appelle, on vient. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. Elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. C'est un automate vêtu de linge qui entre dans la chambre. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade dérèglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Alors, ce qu'il décrit ici, c'est la mécanisation des soins, la réduction du soin à sa dimension purement technique, hein, dans l'oubli de l'art politique. Alors, vous me direz, c'était dans le temps, maintenant, c'est plus comme ça. Parce qu'en effet, il fut une époque où les mourants, les malades, se retrouvaient en effet à l'Hôtel-Dieu. Aujourd'hui, ils se retrouvent à l'EHPAD. Il fut une époque où les malades et les mourants se retrouvaient à la charité. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un CHU ou dans un CHU. À l'époque, ils se retrouvaient dans l'asile des sœurs du bon secours. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la maison de long séjour, les myosotis ou les pervenches. Et on utilise des belles fleurs qui sentent bon pour essayer de faire oublier que les odeurs là-bas ne sont pas du tout, pas toujours de ce genre-là. Et les choses ont fort changé puisque à l'époque, on y était soigné par des accompagnantes à cornette, plus aujourd'hui. Et puis surtout, à l'époque, on se retrouvait dans un lit au-dessus duquel il y avait un crucifix qui devait guider les gestes du soignant, qui devait soigner le malade ou le mourant, comme le Christ a soigné le pauvre. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lit au-dessus duquel on a enlevé le crucifix. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place ? Une charte du patient hospitalisé. C'est exactement le même endroit. Charte dans laquelle il n'est point du tout question de l'amour du prochain, mais de quoi ? Du respect, de la dignité de la personne malade. On est passé de l'amour du prochain au respect de la dignité de la personne humaine. Très bien. Très bien. Oui, sans doute. Mais est-il sûr, premièrement, que cette mécanisation du soin que Cocteau dénonçait est complètement disparue ? À l'époque de la T2A, tarification à l'activité, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on ne crédite que les gestes techniques et tout le temps que l'infirmière ou l'aide-soignante passerait, ou la bénévole, là c'est autre chose, tout le temps que l'aide-soignante ou que la bénévole passerait à écouter ce que ces pauvres mains racontent, comme disait très bien Brel dans la chanson, c'est chez ces gens-là. Plus personne n'écoute ce que ces pauvres mains racontent. Parfois, les vieilles dames, en fin de vie, c'est les mains qui parlent plus. Bon. Or, ce temps passé à écouter ce que ces pauvres mains racontent, c'est un temps très important. Mais à l'heure de la T2A, et surtout à un tel sous-effectif en personnel soignant, ben, la mécanisation des soins, ça nous menace toujours. Vous savez que y a des machines à soigner, il y a des machines à laver. Il existe des machines à donner à manger aux malades, au Japon, par exemple. Hein ? Il existe des machines à laver les gens qui ne peuvent plus se laver seuls, là encore au Japon. Alors, la machine à manger, souvenez-vous, elle débloquait un peu, elle déconnait un peu du temps de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Il y a un moment, elle devient folle. Mais il y a des machines qui marchent très bien, qui donnent régulièrement à manger à celui qui ne peut plus manger seul, et déjà le goutte à goutte. Et puis, porter un corps lourd qui ne peut plus se porter seul, c'est difficile à la frêle aide-soignante. Eh bien, il y a des machines à laver les dames, les vieux qui ne peuvent plus se laver seuls. Alors, on pousse le lit. On le remplace par une espèce de baignoire. Il y a des jets dans tous les sens, ça mousse. Après, on fait sécher le tout, comme nos voitures à côté de chez Leclerc le dimanche matin. Et après, on dit c'est impeccable. Elle est lavée, il a mangé. Mais non, nourrir un homme, ce n'est pas que remplir un ventre. C'est honorer une personne. Et laver une femme, ce n'est pas la même chose que laver un objet. C'est honorer une personne. Et un être humain, en fin de vie, qui ne rencontrerait plus que des machines ou que des êtres humains mécanisés, très vite perdrait le goût de vivre. Car une machine n'est pas une bonne compagne. La compagne, le compagnon, ça veut dire celui qui partage le pain. Vous savez ça, hein ? Accompagné, compagnon, copain, tout ça, c'est le même mot. Cumpanis en latin, partager le pain. Or, l'être humain ne se nourrit pas que de pain, comme dit l'autre. L'être humain ne se nourrit pas que de pain. Et le pain quotidien qui nous donne envie de continuer d'être, alors que nous nous interrogeons sur notre légitimité d'être. Suis-je légitime d'être et d'être comme je suis dans l'état où je suis maintenant ? Eh bien, c'est précisément la parole de l'autre, la présence de l'autre. Hein ? Jean-Pierre Coff, que j'aime beaucoup, disait l'autre jour une formule absolument admirable. Le pain appelle le copain. Magnifique, ça. J'aurais aimé trouver ça. Le pain appelle le copain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le meilleur pain du monde, nom de Dieu, si vous le mangez seul, il perd de tout son goût. C'est le partage. Et il est vrai que le meilleur pain du monde, si vous êtes seul à le manger, n'a plus guère d'intérêt. Et le goût du vivre passerait très vite aux malades et aux mourants si le pain ne leur était donné qu'à titre d'objet qui remplit le ventre. Vous voyez ? Avec des amis philosophes, on se demandait un jour, mais alors qu'est-ce que c'est que la beauté ? L'un d'entre nous hasardait cette définition. Le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux. Le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux. C'est-à-dire que la plus belle musique du monde, si je ne peux pas la faire partager, c'est comme si j'en étais prévié. Le plus beau paysage du monde, si je suis seul à le voir, il perd tout son intérêt. Eh bien, précisément, voilà ce qui nous menace peut-être encore, même si on est passé de l'amour du prochain au respect de la dignité, même si on est passé de l'hôtel Dieu à l'EHPAD, même si on est passé d'un soin conjugué religieusement à un soin conjugué laïquement, voilà ce qui nous menace toujours et surtout en fin de vie. Et mes derniers mots à ce sujet consistent à dire que si le respect est nécessaire, il n'est peut-être pas suffisant. Le respect est peut-être nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il est nécessaire parce que, oui, c'est plus facile de respecter tous les malades ou tous les mourants que de les aimer. Demandez aux accompagnants des mourants qu'ils les aiment tous, comme le Christ, paraît-il, nous aime tous, c'était leur demander quelque chose de très haut. Tous les malades ne sont pas aimables, n'est-ce pas ? Et même aidés du souffle du Saint-Esprit, même aidés du paraclet, nous n'arrivons pas à aimer tous les malades comme le Christ aime tous les hommes. Voilà pourquoi Kant a proposé qu'on substitue à l'amour universel le respect universel. Quel est le rapport que Kant dit qu'il y a entre l'amour et le respect? Un rapport de suppléance ou de palliatif. Hein. Faute de grive, on mangera des merles. Faute d'amour, du respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous nous aimions tous les uns les autres comme le Christ nous a aimés, nous n'aurions pas besoin de respect. Mais parce que nous n'y arrivons pas, nous avons besoin de respect. Le respect, c'est ce qui supplée à l'absence d'amour. Et respecter tous les malades et tous les mourants, c'est moins difficile, c'est moins exigeant que de les aimer tous, n'est-ce pas? Donc, en ceci, je comprends qu'on soit passé de l'amour du prochain au respect de la dignité d'autrui. Le problème, c'est qu'il y a dans le respect une froideur, une distance, une trop grande universalité qui font que je ne suis pas sûr que ce soit le sentiment le plus approprié pour accompagner ceux qui vont mourir et qui révèlent à nouveau cette vulnérabilité, cette fragilité, cette précarité, cette dépendance qu'ils avaient cachée pendant presque toute leur vie. Le respect, c'est en effet la distance, vous savez. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Garder vis-à-vis d'une dame une distance respectueuse, c'est garder vis-à-vis d'Issel une distance qui n'est pas nulle. Or, il y a une distance dans le respect qui peut-être convient à certains malades, mais pas forcément à tous. Précisément, simplement prendre la main de quelqu'un d'âgé qui va mourir. Il y a une très belle photographie qu'on a commentée avec Raphaël Enthoven dans une émission récemment, qui est la main d'une old, je parle anglais comme Chirac, old and new. Non, pas, I'm sorry, old and young. Do you understand what I mean? Donc, et le vieux est jeune, et vous avez une vieille main toute racornie, à la fois rendue plus dure et plus douce par la vieillesse, parce que vous savez, au cœur de la main, il y a un étrange point de douceur, d'humidité presque. Hein. Cette vieille main, eh bien, elle a dans sa main la jeune main d'une sans doute magnifique aide-soignante. Bon, eh bien, ça suppose aller au-delà du respect comme distance. Le respect aussi, c'est le même pour tous les autres, parce que ce que l'on respecte, c'est l'autre en tant que personne. Hein, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Or, la personne et le personnage, c'est pas pareil. Regarder l'homme comme un personnage, c'est être attentif à ses qualités, à ses singularités, à ses particularités. Alors, qu'est-ce que c'est que la personne? C'est l'homme sans qualité. La personne, c'est l'homme regardé indépendamment des qualités qui font de lui un personnage, vous voyez? Bon, c'est là-dessus qu'a joué Ulysse quand il a dit « je suis personne à Polyphème, hein. Je suis personne ». Le mot « personne » désigne à la fois une présence et une absence. Si on dit « il y a 80 personnes dans la salle », ça veut dire 80 présences. Mais si on dit « il n'y avait personne au rendez-vous », ça veut dire une absence. Eh bien, précisément, le respect, il a quelque chose d'un peu distant, d'un peu froid, d'universel, c'est-à-dire d'indifférent à la singularité des hommes. Et si je crois que le respect est nécessaire, je crois qu'il n'est pas suffisant. Et je dirais en effet que même s'il ne s'agit pas peut-être de revenir en arrière, de revenir au moment où on soignait, on accompagnait par amour, par grâce, au nom de la grâce, je dirais que même s'il n'est peut-être plus question de soigner par grâce, il serait bon que l'on soigne avec grâce. Avec une certaine grâce qui précisément est une manière de dire à l'autre que quelle que soit sa décrépitude, sa vulnérabilité, sa fragilité, il reste un être digne et peut-être digne de quelque chose comme de l'amour. Alors c'est précisément ce que Paul Ricoeur avait proposé, qui voulait que le soin en fin de vie fût inspiré par la sollicitude plutôt que par le respect. Ricoeur écrit quelque part « Je veux donner à la sollicitude un statut plus fondamental qu'au froid respect qu'ancien. » Et Ricoeur d'ajouter, le donner de la souffrance de l'autre décèle en nous des sentiments altruistes spontanément dirigés vers autrui, au premier rang desquels je place la sollicitude. Je reprends, le donner de la souffrance de l'autre, ça c'est pas très bien écrit. Hein. Donner, c'est donner ER. Alors dans certaines langues comme l'anglais et l'allemand, on peut très vite substantiver des verbes, mais en français c'est pas très joli. Pourquoi il dit pas le don de la souffrance de l'autre, c'est comme ça. Enfin, le donner de la souffrance de l'autre, quand l'autre donne à voir sa souffrance, décèle, du verbe déceler, bah oui, mais déceler au sens où souvent on a le cœur scellé, blindé, parce que toute la vie on se blinde, on se cache, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est vulnérable et qu'on pourrait pleurer très vite. Notre vrai visage, c'est Jean qui pleure, Jean qui rit. Toute la journée, on est au bord des larmes et on est au bord du rire. Mais on a appris à jouer la comédie, résultat, on ne rit pas et on ne pleure pas. Hein. Alors justement, le donner de la souffrance de l'autre décèle en nous des sentiments altruistes spontanément dirigés vers autrui, au premier rang desquels je veux mettre la sollicitude. Je crois qu'il a raison de dire que la sollicitude vaut mieux que le respect. Le problème, c'est que là encore, cette sollicitude, elle n'est pas toujours facile, parce que il veut remplacer la sollicitude, le respect par la sollicitude. Et ça, ça m'inquiète. Parce que la sollicitude, elle suppose d'abord que l'autre donne à voir sa souffrance. C'est le donner de la souffrance de l'autre qui décèle la sollicitude et l'altruisme. Mais si l'autre ne donne pas à voir sa souffrance, ben, il n'y aura pas de sollicitude. Vous savez qu'il y a des gens qui ne montrent pas du tout qu'ils souffrent. Du coup, on croit qu'ils ne souffrent pas, alors qu'ils souffrent énormément. Ou alors, il y a des gens qui, d'accord, donnent à voir leur souffrance, mais qui la donnent à voir d'une manière très désagréable, par acrimonie. Souvenez-vous de ce mot très profond dans Kirikou. Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante? Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante? Personne n'est capable de lui donner la réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait son grand-père qui lui dit « parce qu'elle souffre ». Et parfois, certains malades n'ont d'autre manière de montrer leur souffrance, de donner à voir leur souffrance, comme dit Ricoeur, que par l'acrimonie, l'agressivité. Et alors là, c'est difficile d'aimer. Il y a parfois des gens qui montrent leur souffrance de telle manière que ça ne décèle pas, au contraire, ça scelle la sollicitude. Ah vraiment, la vieille du 12, là, je ne peux pas la supporter. Hein. Elle est méchante, avare, je l'ai vu parler à ses enfants, raciste, désagréable, puis elle pue. Alors là, la sollicitude ricœurienne, taratata. Donc moi, je crois que le sentiment moral, c'est le respect. Mais si le respect est nécessaire et plus facilement universalisable que la sollicitude ou que l'amour, il n'est pas suffisant. Et l'amour vaut mieux quand même que le respect. Voilà pourquoi, comme le disait très bien, oui, la sollicitude, elle va évidemment vers la belle trentenaire atteinte d'un cancer qui est restée magnifiquement belle, quoique découronnée par la chimiothérapie, et qui vous regarde avec de douces larmes, qui reste digne dans la souffrance, qui ne hurle pas, qui vous remercie pour ce que vous faites. Alors là, la sollicitude est évidente. Mais est-ce que la sollicitude va justement vers la vieille dame ou peut-être le jeune homme, mais désagréable, agressif que je désignais? Non. Résultat, il faut quand même maintenir le respect. Mais si le respect est nécessaire, il n'est pas suffisant et l'amour vaut mieux que le respect. Voilà pourquoi, comme disait Jean Gabin, le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Souvenez, il chantait ça dans la dernière chanson qu'il a chantée, ou plutôt prononcée. Hein, quand j'étais gosse comme trois pommes, je parlais bien fort pour entendre. Je disais, je sais, je sais, je sais. Et quand j'ai dit visitant, j'ai dit, ça y est, maintenant, je sais. Et maintenant, je regarde par la fenêtre, je regarde et je m'interroge. Moi qui suis à l'automne de ma vie, je sais qu'on ne sait jamais. Ça, c'est du Socrate, je sais qu'on ne sait jamais. Si, la seule chose que je sache, c'est que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Et là, il monte un peu vers les aigus, la voix abîmée par les Gauloises. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Et c'est vrai. Et il est vrai que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Alors que le jour où quelqu'un nous respecte peut être un jour gris comme les autres. Alors, sauf si vous n'avez pas été respecté depuis longtemps. Si vous n'avez pas été respecté depuis longtemps, si vous êtes un SDF méprisé de tous, si vous êtes une femme battue, si vous êtes un vieillard abandonné de tous ou violenté, et qu'un jour quelqu'un vous donne un peu de respect, ah oui, là c'est un beau jour. Mais la plupart du temps, les autres nous respectent. Il est rare que les autres nous manquent de respect. La plupart des gens que vous avez rencontrés aujourd'hui vous ont respecté. Et pourtant, ce jour a peut-être été très gris. Alors que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. C'est comme un rayon qui descend du ciel, ou plus poétiquement, comme le chant d'un hautbois qui vient sur le tapis des cordes dans un adagio de Vivaldi ou dans un adagio de Marcello ou dans une cantate de Bach. Hein. C'est l'instrument de la verticalité, le hautbois. Le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Car seul l'amour peut nous rassurer quant à cette question fondamentale qui est la question humaine. Suis-je digne d'être? L'homme est le seul être qui sache qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Il n'a pas demandé à être, il n'a pas demandé à être comme il est. D'ailleurs, s'il le pouvait, il demandait des modifications. Résultat, l'être humain, c'est le seul être qui soit en quête d'une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est, d'une justification au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Or, la seule chose qui puisse nous rassurer quant à notre légitimité d'être et d'être comme nous sommes, c'est l'amour. Car le jour où quelqu'un vous aime, c'est comme si quelqu'un, eh bien, disait « oui, il est légitime que tu sois » et légitime que tu sois comme tu es. Avec mes défauts, avec ma culotte de cheval, avec mon nez infâme, avec mes défauts moraux, oui, il est bon que tu sois. Que dit celui qui vous aime, il ne fait pas que légitimer le fait que vous soyez comme vous êtes. Celui qui vous aime, il célèbre, il jubile, il bénit le fait que vous soyez et que vous soyez comme vous êtes. Et même diminué, et même ayant perdu nombre de facultés et la maîtrise de ses sphincters, de sa parole, de ses gestes et de sa mémoire, si celui qui va mourir voit dans votre œil quelque chose comme un « il est bon que tu sois et que tu sois comme tu es ». En tout cas, peut-être que tu vas partir, mais il a été bon que tu sois, il a été magnifique que tu sois. Eh bien, à ce moment-là, peut-être que sa fin de vie aura quelque chose comme un apaisement. Peut-être que ce ne sera pas si terrible que de s'être montré tel qu'on est, c'est-à-dire vulnérable, précaire, passif, dépendant, etc. On raconte dans la mythologie grecque que le roi Pelée et sa femme... le roi Pélée, je me confonds avec le joueur de foot, que le roi Pélée et sa femme Thétis eurent un fils qu'ils nommèrent Achille. Et parce qu'elle voulait qu'il fût invulnérable, eh bien Thétis l'avait plongé dans le Styx. Et il paraît que tout corps plongé dans le Styx en sortait invulnérable. Mais pour le plonger dans le Styx, il fallut bien qu'elle le tînt par le talon. Résultat, il était invulnérable partout, sauf à son talon. Et puis en plus, il y a une prédiction qui dit qu'il mourra précisément à cause de ce talon d'Achille à Troie. Elle essaie d'éviter la prédiction le confiant à Chiron, qui lui donne à manger des cervelles de lion, de tigre, pour qu'il devienne fort invulnérable. Ensuite, elle le déguise en femme, mais il est récupéré. Ensuite, elle demande à Vulcain de lui bâtir une armure qui est invulnérable, mais il mourra fatalement et il mourra par amour. Eh bien, pourquoi pas ? Car fondamentalement, celui qui ne veut pas mourir, c'est celui qui ne veut pas aimer. Et je termine par une petite anecdote qui est l'anecdote de la fin de vie de Monsieur de Fontenelle. Vous avez tous entendu parler de Monsieur de Fontenelle, ce philosophe matérialiste, athée, cynique, attendez, c'est pas parce qu'on peut être matérialiste et athée sans être cynique, hein. Il n'y a aucun rapport. Hein. Bon. Mais enfin, il se trouve qu'il était très... Bon. Et il se trouve qu'il arrive, à l'époque, c'était rare, à l'âge canonique de 90 ans. Et qu'il a l'esprit très délié. Il est très méchant. Il fait des mots d'esprit. Il y a un moment, il rencontre une ancienne maîtresse. Il jette un petit coup d'œil sur le décolleté. Et elle lui dit « Ah, vous vous souvenez de ces deux petits mignons ?» Et à ce moment-là, Fontenelle répond « Madame, ces deux petits mignons me paraissent devenus deux grands pandards. » Bon, à un moment, il y a un salon, on discute... Et puis la dame lance, mais alors à quelle plante, à quel arbre pourriez-vous, à quelle fleur pourriez-vous vous comparer ? Alors il y a quelqu'un qui dit, moi la pensée, parce que si Mitterrand avait été là, il aurait dit le chêne et l'olivier, etc. Et puis plein de, moi j'aime bien le, bon. Et puis alors Monsieur de Fontenelle ne dit rien, et vous Monsieur de Fontenelle ? Et c'est lui qui a inventé cette formule que j'adore, moi, un poireau ! Et pourquoi cela ? Eh bien, comme eux, la tête blanche, mais la queue verte. Bon. Et alors, il est très cynique. Il pense que le cœur n'est pas du tout le foyer des sentiments, mais uniquement une pompe. Et il pense que l'amour, ça n'existe pas, que c'est juste une ruse de la nature pour permettre la reproduction de l'espèce. Il arrive à l'âge de 92 ans, 93 ans, 94 ans, toujours en pleine forme. Et à un moment, tout le monde dit, mais Monsieur de Fontenelle, mais alors, vous ne mourrez donc jamais ? Et Fontenelle répond, oui, en effet. Car j'ai décidé de ne pas mourir. Tout le monde dit, enfin, Monsieur de Fontenelle, vous allez mourir. Mais non, non, j'ai décidé de ne pas mourir. Et vous verrez, je ne mourrai pas. Alors à ce moment-là, tout le monde lui dit, on lui sort le coup du syllogisme socratique. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tous les hommes sont mortels, or Fontenelle est un homme, donc Fontenelle est mortel, vous allez mourir. Et Fontenelle dit, cela ne prouve rien. D'abord, qui vous dit que je sois un homme ? J'en ai l'apparence, l'allure. Mais je ne suis peut-être pas un homme. Et alors la maîtresse avec qui il avait été méchant dit, ça il est vrai que l'on peut en douter. Puis alors il dit, non, je ne suis peut-être pas un homme. Ou alors je serai le premier homme à ne pas mourir. Vous verrez. Alors tout le monde dit, bon, Monsieur de Fontenelle. Le problème c'est qu'il arrive à 95, 96, 97, 98 ans et toujours en pleine forme. Et alors quand on le voit passer à la cour, tout le monde s'inquiète. Il ne va pas mourir lui. Or, pour la première fois de sa vie, à l'âge de 98 ans et demi, Monsieur de Fontenelle est tombé amoureux d'une jeune... noble allemande venue à Paris pour étudier les choses de la science. Et alors elle est ravissante, savante, elle chante divinement bien. Ça a donné un film avec Michel Serrault qui s'appelle Un cœur oublié, un téléfilm tout du moins. Et il l'a fait venir dans le petit observatoire où il avait placé un télescope dans son grenier, n'est-ce pas, pour observer la pluralité des mondes. Vous savez, il a écrit un traité de la pluralité des mondes. Et donc, toutes les nuits, alors il y a un charme nocturne aussi, hein, comme il y avait au moment... ou après le cours de latin, la cohérence de l'exposé, on va vérifier. Hein. Bon, eh bien, et alors elle vient le soir, et il est profondément amoureux d'elle, mais amoureux, et il attend, et puis plus ça va, plus il attend, parce qu'elle vient tard, ou elle ne vient plus, et vient le moment où elle ne vient plus du tout. Et pourquoi ? Parce qu'elle est partie étudier les choses de la science avec ce salopard de Diderot, parce que Diderot, qui est beaucoup plus jeune, qui est sur le coup, eh bien l'a invité, résultat, elle ne va plus chez Fontenelle, mais chez Diderot. Et Fontenelle en est tellement malheureux qu'il va mourir d'un chagrin d'amour. Et ça, il va se rendre compte que le cœur n'est pas seulement une pompe, mais le foyer des sentiments. Eh bien, Achille est mort par amour, faisons en sorte que ceux qui vont mourir soient accompagnés par quelque chose comme de l'amour. Merci de votre attention.
C'est vrai que je vous remercie, Monsieur Fiat. C'est vrai qu'après, c'est très difficile de prendre la parole maintenant, mais peut-être justement, ça vous engage à un questionnement. Donc,
je vous remercie également. Je suis accompagnante et j'ai été extrêmement baladée au sens humoristique du terme et profond en même temps par votre exposé qui nous met dans la joie, qui nous surprend et qui nous ramène à cette réalité tellement forte des accompagnants. Et votre dernier mot sur lequel vous laissez cette impression aussi forte et aussi vraie, et je vous en remercie. Personnellement, j'ai toujours ressenti en moi-même le fait que l'accompagnement procédait de l'amour, tout simplement. J'ai jamais peut-être osé le dire aussi véritablement que vous l'avez dit ce soir, et je vous en remercie du fond du cœur.
Merci à vous. Alors évidemment, c'est peut-être un gros mot. La pudeur fait qu'on hésite à l'employer. J'aime bien la pudeur classique, là où le romantisme est souvent impudique, le classicisme est toujours pudique, qui exprime des choses fortes sous le régime de l'euphémisme d'Halitote. Et précisément, on dit dans « va, je ne te hais point ». On n'ose pas dire « je t'aime ».« Va, je ne te hais point ». Et chez Pagnol, c'est pareil. Souvenez-vous de ce moment où Marius, il va partir. Il va quitter son père César. Mais il n'ose pas lui dire. Et il a quand même envie, avant de partir, lui dire quelque chose. Et il lui dit « tu sais, papa,
oui,
je t'aime bien ». Et ce bien, après, aime. Et magnifique. Donc je conçois qu'il puisse y avoir quelque hésitation à parler d'amour, à employer ce gros mot, hésitation qui vient d'un souci fort légitime de pudeur. Je redis aussi que l'amour est plus difficile que le respect et qu'il doit se surveiller l'un l'autre. Respect et amour doivent se tenir par la barbichette, parce que précisément si on dit il faut aimer tous les malades, il y a des cas où ça va devenir impossible, ou alors on va s'y efforcer, mais étant donné qu'on n'y arrivera pas, le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête, comme dit Pascal. Or, c'est là qu'il faut dire, bon, si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous n'y arrivez pas. Bon, il y a aussi une différence à faire entre les professionnels et les proches, peut-être entre les professionnels et les bénévoles, vous voyez, bon. Commander l'amour est une chose contradictoire, dit Kant. Je crois aussi qu'il faut donc que le respect et l'amour se surveillent l'un l'autre, qu'ils se tiennent par la barbichette, parce que s'il n'y a que du respect et aucun amour, on va tomber dans quelque chose de froid, de distant, d'universalisant. Et je crois que souvent, les gens qui vont mourir, le respect, ça ne leur est pas suffisant. Hein. Ils demandent un je ne sais quoi en plus, qu'on peut nommer sollicitude, empathie, comme vous voulez. Mais tout ça, ce sont des guises de l'amour, je crois. Mais en même temps, donc il faut que l'amour peut-être surveille le respect pour que le soin ne se réduise pas à quelque chose de formel, de froid, de distant. Mais en même temps, il faut aussi que le respect surveille l'amour. Parce que dans l'amour, il y a quelque chose qui est parfois pas... Alors là, on est tout en trop de proximité. Et on peut englober l'autre, avaler l'autre, vous voyez. Et résultat, il faut à ce moment-là savoir y mettre de la distance. Et donc, respect et amour doivent se surveiller l'un l'autre et l'autre l'un, si vous voulez. Ça me paraît très, très, très important. Donc, il est urgent de ne pas choisir entre les deux sentiments, si vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus ? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Surtout, je crois qu'il ne faut pas conjuguer la relation à celui qui va mourir à partir d'un seul sentiment. Parce que l'essentiel, c'est de s'adapter à celui qu'on a en face de soi. Et vous avez des mourants qui se contentent parfaitement d'un froid respect qu'ancien. Vous savez, ce genre de malade, j'en ai vu, qui, quand il voit arriver les bénévoles, sont très contents de pouvoir les... J'ai pas besoin de vous. Ces bénévoles, je vais être caricatural, qui parfois sentent un peu la sacristie. Bon, eh bien, le radical soc, le rat soc du coin, hein, le radical socialiste, etc., qui toute sa vie a bouffé du curé et qui veut rester maître de lui jusqu'au bout, alors il aura un grand plaisir. Non, moi, je veux pas de sentimentalité. Là. Pour lui, alors il va confondre. Pour lui, de la compassion, c'est de la pitié, c'est méprisant, la charité, c'est dégoulinant. On veut me faire faire le signe de croix, on veut me convertir de. Bon, celui-là. Eh bien, s'il se contente qu'on lui donne des soins et qu'on le respecte, eh bien, pourquoi aller plus loin ? Bien l'accompagner, c'est précisément dans ce cas-là ne pas aller plus loin. Mais vous avez aussi des malades qui, eux, veulent beaucoup plus et qui essaient de susciter de vous quelque chose comme de l'amour, de la tendresse, voire de la pitié. Alors, c'est là aussi que l'accompagnant doit aussi, lui, être respecté, etc. Hein. Donc, je crois que l'essentiel, c'est de s'adapter. Et alors, je crois qu'entre la gamme des sentiments auxquels on a voulu résumer le soin, amour jadis, respect aujourd'hui, et apparemment aujourd'hui sollicitude, empathie, care, plutôt que cure, comme disent certains, eh bien, je crois qu'entre tous ces sentiments, il est urgent de ne pas choisir. L'essentiel, c'est de s'adapter à celui qui est là. C'est doit être lui notre maître. C'est avec lui qu'il faut trouver la manière de danser, vous voyez ? Hein, ne lui imposez pas un tango s'il veut une valse, ne lui imposez pas un menuet. Hein, et par exemple, ne lui imposez pas les étapes bien reconnues par Elisabeth Kübler-Ross ou éventuellement Marie de Henzel. J'admire beaucoup ces deux auteurs, mais ce qui m'ennuie parfois chez Marie de Henzel, en tout cas dans la mort intime, elle a évolué depuis, c'est qu'elle présente, il faut absolument apparemment qu'une fin de vie réussie, c'est une fin de vie avec la sérénité, l'apaisement, le consentement. Alors que ce n'est pas vrai, il y a des fins de vie où la révolte, l'angoisse, le tragique reste là. Et si le malade est dans la révolte, dans le tragique et dans l'angoisse, eh bien l'accompagner, c'est respecter aussi ces sentiments-là, vous voyez ? Bon, quand elle parle de Kübler-Ross, il y a comme ça des étapes. Alors elle a dit après que ce n'était pas forcément des étapes conjuguées, mais vous avez des moments de sidération, de révolte, puis de négociation, puis de... Bon, ben non, n'imposons pas à l'autre, à celui qui va partir, un tempo, une liturgie... le respecter en fin de vie, c'est aussi le faire le maître du jeu, tout en sachant qu'en même temps il a des droits mais aussi des devoirs autant que faire se peut, et il n'a pas le droit précisément de manquer de respect à ceux qui l'accompagnent. Donc j'ose employer le mot amour, mais je veux tout de suite, pour qu'il n'apparaisse pas trop chargé, l'inquiéter, le corriger par le respect. Il faut que le respect et l'amour se corrigent, se tiennent en haleine, hein, se surveillent, s'inquiètent l'un l'autre et l'autre l'un.
D'autres questions ?
Ou remarques ou objections ? Mais c'est vrai qu'il est un peu tard, je suis bavard comme tout.
Bonsoir, donc Catherine Boisseau, je suis cadre infirmier à l'unité de soins palliatifs et je voulais vous remercier d'abord pour tout ce que vous avez pu dire, et en vous écoutant, je pense que ce qui me vient, on en parle souvent dans l'équipe, c'est le mot tendresse, en plus du respect, et là, à vous écouter, je pense aussi à un autre sentiment, c'est la joie. La joie au sens de l'ouverture, parce que je pense que pour se laisser guider et accompagner, si on n'est pas dans cette ouverture à l'autre, on ne pourra pas. Le soignant qui est lui-même complètement fermé et angoissé pourra difficilement... Alors ça peut paraître paradoxal, mais je pense que les malades ont aussi besoin de sentir autour d'eux... Alors je ne sais pas si c'est le mot joie, mais voilà, ça m'a fait penser à ça, cette ouverture, ne serait-ce qu'un sourire. C'est évident que du coup, c'est eux qui nous apprennent et qui nous montrent... ce dont ils ont besoin, qui est différent pour chaque personne.
Bien sûr. Joie. Et alors, humour. Amour et humour aussi, parce que l'humour, bon, on peut le présenter parfois comme étant la politesse du désespoir, ce qu'il est parfois, ce qu'il est souvent en fin de vie, à distinguer du vinaigre de l'ironie. Hein. L'ironie et l'humour, c'est pas pareil. Il y a parfois des mourants qui semblent faire de l'humour. Ce n'est pas de l'humour, c'est de l'ironie. L'ironie blesse, l'humour apaise. Or, l'humour me paraît chose importante. Et ça, c'est important de dire que en soins palliatifs, on l'a oublié pendant pas mal de temps. Je veux dire par là que veiller les mourants, ce n'est pas une nouveauté. Ça s'est toujours fait dans toutes les civilisations. Mais il faut lire le magnifique roman de Jean Giono, « Les âmes fortes », qui est le récit d'une veillée, pour voir que dans les veillées, il y avait une place pour les histoires drôles, pour l'humour. Hein, je me souvenais, c'est le récit. Alors, ce n'est pas une veillée avant la mort, c'est après la mort. Et ce sont des dames qui se réunissent pour veiller à un mort. Et tout le roman, c'est ça. Parce qu'en fait, elle parle. Résultat, elle raconte des histoires. Et il y a des moments où on est parti dans des histoires absolument extraordinaires. Et le début est très, très drôle. Parce qu'il y a un moment, les dames qui sont là, et il y en a une qui dit à l'autre, « Va voir un peu ce qu'il fait. » Ben, ça m'étonnerait qu'il fasse grand-chose. « Hé, détrompe-toi. » Puis elle raconte une histoire où il était mort, mais à un moment, son dentier était tombé. Et résultat, ça avait fichu le feu dans les bougies. Le dentier était tombé sur une bougie qui avait... Bon, donc va voir ce qu'il fait. Puis après, oh, ça m'appelle une autre histoire. C'est l'histoire de type qui avait veillé un mort, et c'était des hommes, et ils avaient tellement soif qu'ils se sont mis à boire. Et à un moment, ils étaient tous complètement ivres. Et résultat, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait le feu. Après, le mort était à moitié brûlé. Enfin, tout ça. Et quand on lit cette histoire, on rit, si vous voulez. Bon. Brassens, d'ailleurs, que j'aime beaucoup et que je citais, fait ça. L'inquiétude métaphysique, elle est là, mais toujours cachée sous une petite pirouette. Et alors, je crois aussi qu'il faut penser à cette ressource-là. Parce que dans les soins palliatifs, on a surtout au début été précisément un peu... Bon, cette ressource est fondamentale, enfin. Et puis, même, je disais qu'en fin de vie, souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que le malade n'est qu'un être qui souffre et qui ne peut plus jouer. C'est-à-dire que s'il a encore la force de jouer et de jouer un peu la comédie, et même de cabotiner un peu en fin de vie, pourquoi pas ? Pourquoi imposer à tout prix au mourant d'être dans l'authenticité ? On a fait souvent l'éloge de l'authenticité en fin de vie. On a raison, parce que souvent, pendant toute notre vie, on est souvent inauthentique. On joue la comédie, on est souvent inauthentique. Et souvent, quand on souffre et qu'on est en fin de vie, on devient authentique. Mais en même temps, n'obligeons pas l'accompagnant et n'obligeons pas l'accompagné à être de l'authenticité. Parce que si je l'oblige, le mourant, à être de l'authenticité, ça veut dire « t'as plus le droit de jouer de la comédie, tu vas mourir ». Terrible, ça c'est une manière de l'envoyer dans la tombe déjà alors qu'il n'y est pas encore. Et peut-être qu'il peut y avoir encore une ultime comédie, peut-être un dernier mot bien préparé. Hein. Vous savez ce qu'avait dit Guitry qui jouait la comédie tout le temps, pas simplement sur scène, mais aussi dans la vie. Eh bien, une de ses femmes avait dit « Je ne l'ai jamais vu démaquillé au moral. » Jamais je ne l'ai vu démaquillé au moral. Il jouait tout le temps là. Et il paraît que juste avant quand l'agonie a commencé, il a dit à Lana Marconi « Ne regardez pas mon petit, ce n'est pas un spectacle. » Et il a interdit l'entrée de sa femme à sa chambre parce qu'il sentait que non, il ne pouvait plus. Bon, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis donc, s'il y en a qui veulent... Bon, ce serait terrible, ce ne serait pas respecter le malade, le mourant, que de lui dire « tu vas montrer ton vrai visage. » Je peux encore cabotiner, pourquoi pas ? Bon, ça me permet de passer des bons moments encore. Et puis, n'oublions pas aussi forcément le soignant, l'accompagnant à l'authenticité. Parce que dans certains cas, ça va être magnifique. Vous allez authentiquement montrer. Mais dans d'autres cas, si vous êtes authentique, vous allez dire à la vieille qui... je vous dérange pas ? Ah bah si, ça me dérange. Vous voyez ? L'authenticité, elle pousserait parfois à être brutale. Non, non. Il faut parfois, de temps en temps, jouer un peu la comédie aussi, vous voyez ? Donc, humour... Amour, respect, ce sont moi les trois termes, le triangle. Mais je répète, ce n'est pas nous qui devons dire, c'est plutôt ceux qui vont partir qui doivent nous dire. Mon expérience, c'est que humour, amour et respect, et puis il est important aussi que l'humour surveille l'amour. Enfin, il y a là une trilogie, une tension féconde. Il me semble que souvent, quand on arrive à apporter ça jusqu'au bout à quelqu'un qui va mourir, ce n'est pas trop mal ce qu'on fait pour lui. Mais... Dans d'autres cas, respect suffit. Dans d'autres cas, Henri Salvador, magnifique. 91 ans, en pleine forme. Parce qu'on voudrait tous mourir comme ça. Hein. Le plus tard possible, en pleine forme et brutalement. À 91 ans et demi, la veille de sa mort, il passe à la radio chez Laurent Baffy. le niveau intellectuel déjà de l'émission. Bon, et il arrive et il raconte une blague, mais alors, moi ça me fait mourir de rire, mais enfin j'ose pas la raconter ici. Il raconte une blague. Au début, il dit, alors t'as été un peu fatigué? Bah ouais, tu sais, c'est un peu dur. J'ai des problèmes intestinaux. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. Mais enfin, et alors avec un éclat de rire, éclat de rire de Henri Salvador, il rentre chez lui, un peu fatigué le soir, le lendemain, paf, une hémorragie cérébrale, il meurt en une demi-heure. On souhaite tous ça, hein, mourir sur un éclat de rire. Bon, mais c'est pas forcément, ça sera pas forcément le cas.
Allez, une dernière, enfin une dernière.
Une dernière.
Alors deux, très vite.
On parlait d'amour, là. On dit que l'homme, il naît par amour, il naît par un amour compatible. Est-ce que la peur de ne plus être, c'est la peur de ne plus être aimé, quelque part? Et savoir, quand je dis amour compatible, c'est-à-dire que si je suis présent là, c'est parce que l'amour de ma mère et de mon père était compatible. Que si elle avait aimé quelqu'un d'autre, peut-être que ce ne serait pas moi, ce serait un autre. Et le respect de la personne qui va partir, c'est d'avoir un amour compatible. C'est-à-dire, cet amour, savoir ne pas aller plus loin et savoir passer le relais à quelqu'un si on n'est pas capable d'aimer cette personne et de lui montrer un peu d'amour. Je pense que, voilà, c'est partir en sachant qu'on est encore aimé. Quoi. Voilà.
Je suis très séduit par cette idée de compatibilité. Oui, 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 je trouve ça très bien exprimé. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il y avait une question ? J'ai pas vu. Quelqu'un veut ? Oui ?
Je ne voudrais pas vous contrarier, mais quand vous dites qu'on veut tous mourir rapidement et sans le sentir, j'ai au moins un cas d'une personne qui est l'un de mes maîtres, professeur Daban, qui m'a dit un jour, on dit toujours que mourir rapidement et sans s'en rendre compte, c'est une belle mort. Moi, non. Moi, je veux voir venir, mourir comme ça. Mais il ne jugeait pas les autres en disant ça, il parlait pour lui. Pour moi, ça serait une mort d'imbécile.
Ah, c'est gentil pour moi, ça.
Non, vous avez raison. Non, je dis, c'est aujourd'hui, nos contemporains, il semble qu'aujourd'hui, le désir de nos contemporains, ce soit ça, si vous les écoutez. On veut vivre le plus longtemps possible et en très bonne santé le plus longtemps possible. Et la plus, c'est ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire qu'on le veuille véritablement. On dit ça quand on en est loin. Hein. Mais apparemment, quand on interroge nos contemporains, c'est ça qu'ils disent. Moi, je veux mourir, allez, pauvre, brutalement, vieux, en pleine forme. Mais en même temps, on n'a pas dit ça à toutes les époques de cette manière. Hein. Ça, c'est assez symptomatique de notre époque et de ce que l'on dit quand on est loin de ça. Mais quand on s'en approchera, il n'est pas sûr qu'on dise cela. Vous savez, quand on va dans une maison de retraite, quand on n'y est pas allé depuis longtemps, si on n'a pas l'habitude, spontanément, c'est « Ah, moi, jamais. Moi, comme ça, jamais, jamais. Ça, jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. » Et puis, quand on s'en approche de cet âge ou de cette... On passe souvent du « moi, jamais » ou à pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et l'immense majorité des gens, même très abîmés, très dégradés, très veulent vivre.
Oui. Excusez-moi, donc je ne me suis pas présentée. Je suis Sylvie Cafardi, médecin en soins palliatifs à l'hôpital de Montmorillon. Et en discutant avec plusieurs équipes de soins palliatifs, on se rend compte d'une chose, c'est que cette période de fin de vie, justement, est très importante parce que nous dirons que c'est une période de dénouement au sens propre du terme, où les personnes en fin de vie doivent dénouer un par un toutes leurs attaches à cette vie. Et moi, j'ai l'impression que quand les gens ont tout dénoué, et j'entends leur relation à autrui, les conflits, le bilan de leur vie, tous les regrets, quand tout est dénoué, ils partent tout seuls, tranquilles. Et les forcer à aller plus vite, ça pourrait être grave.
Bien sûr, tout à fait d'accord. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine, peut-être ça peut être notre mot de la fin, une fable de La Fontaine qui se termine comme ça. Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fît son paquet et que l'on dit merci. eh ben, je fais mon paquet, je vous dis merci et je vous invite au banquet. Merci.
On se dit bonsoir, on remercie bien sûr, nous remercions Monsieur Fiat de cette conférence et surtout de cette qualité à jouer sur les sentiments, ressentiments. Donc, si certaines sont intéressées pour accompagner, l'association JALMAV effectivement a besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a des bénévoles qui peuvent répondre à vos questions. Voilà, merci. Et bonsoir.